Chers amis, si vous voulez bien prendre place. Donc, nous allons commencer les travaux de cet après-midi avec Pierre Martin de Poitiers, de l'équipe Forelis, avec un titre énigmatique, En avoir ou pas, et des documents à l'ancienne, a-t-il dit, du papier, des images. Voilà, et puis ensuite, on aura un moment autour des casse-têtes, etc. Merci Pierre.
Donc, comme j'avais un document parasite sur mon papier, tout le monde a bien.
Mais ça va, peut-être si d'autres arrivent, peut-être que c'est sur la chaise.
Il faut que je passe par le micro, absolument, comme ça, voilà. Donc, à l'origine de ces quelques mots sur la question des armes dans les cabinets de curiosité, un des premiers cabinets de curiosité du XVIe siècle, dont on est un témoignage un peu développé, sinon d'ailleurs le tout premier, le cabinet de Michel Tiraco à Fontenay-le-Comte, dans sa propriété de Belle-et-Bas, auquel le poète protestant André de Rivaudeau consacre une cinquantaine de vers que l'on peut lire dans ses œuvres de 1566. Je l'ai saisi entièrement et j'ai numéroté les vers pour que vous puissiez suivre plus confortablement les choses. Et je vais lire le passage des vers 182 à 231, c'est le passage en question, qui rend compte du recueil, c'est-à-dire de la collection. C'est un des termes utilisés pour dire la correction. On dit aussi le rama un peu plus tard. Bon. Je le lis. Donc cette collection de force livres bons tirés des mille endroits de la France et du fond des brises aux Oniens, des presses de Venise et du pays soufflé par la laine de Bise, et d'un saint cabinet à qui le grand soleil qui voit tout et sait tout ne sait rien de pareil en la France aujourd'hui, mille médailles belles qui nous rendent au vif les faces immortelles de tous ces pères vieux, et cent vases polis, étoffés d'alabâtre et d'ouvrages embellis, et des meilleurs pinceaux, les plus dignes peintures, en nombre fort bien grand, et force pourtraiture de bosses et de reliefs, et par l'art de Vulcain, des statues de fonte en bronze et en airain. Ici le burin dur, ici l'art qui émaille, ici la damasquine, un graveur, un qui taille et sans autre on part. D'une assiette Dieu, on voit de cent ouvriers les traits laborieux. D'autre part, des poissons de la mer libyenne se voient naturels, ligustiques et tyrènes, l'hippocampe menu, le palombe globeux qui de la mer d'Égypte à les rivages bœufs, c'est-à-dire bu, les lizards du Brésil et mains barbares monstres qu'au docte comme lui plus docte il nomme et monstre. Que dirais-je, les fruits des arbres étrangers rapportés de si loin parmi mille dangers, le poivre avec sa grappe et la palme idumée et du baume naïf la liqueur renommée, des baumes d'artifice ou des hommes la main pour imiter le vrai à travailler en vain. Je tais, c'est le verbe taire en réalité, hein. Je tais du giroflier la plante peu connue dont les clous sont connus, c'est-à-dire en forme de coin, de Judée venu, et le sucre en sa canne, et miracle non cru, l'herbe qui rafraîchit, le sauvage recru. Je ne discourrai point maint arbre, mainte plante, dont le mort, le juif, dont l'Orient se vante, je dirai l'œuf d'autruche et les habits sauvages composés d'extrements de petits cartilages, de racines d'écorce, et leurs velus chapeaux, leurs braies, leurs tapis et leurs panaches beaux que tu as arrangés en cette chambre ornée où tu tiens Tiraco, le Pérou et Guinée. Je chanterai l'honneur du bol arménien et les rares trésors du terroir indien, mais un autre dira le merveilleux ouvrage lequel tu as reçu d'Apollon en partage, ce grand livre où tu fais à ton divin hogar l'effet de la nature imitée par son art, où au plus près du vif il te plaint 500 plantes que dans ton bel et bas né tu lui présentes. Alors vous voyez, c'est un peu déceptif parce qu'il n'y a pas de panoplie exposée au mur, il n'y a pas d'armure. Il n'y a pas de hallebarde, il n'y a pas d'estoc, il n'y a pas la moindre arbalète, pas de couteau de chasse, pas le moindre canif, même pas un coupon, il n'y a rien. L'amateur d'armes est évidemment tenté de se raccrocher désespérément à cet hémistiche du début de la description qui rencontre des artificialia de collection. Ici, la damasquine. Bon. Mais si j'en crois Guy-Michel Leproux, c'est là une expression qui ne renvoie pas encore au travail artisanal qui consiste à sertir des fils d'or ou d'argent en les martelant sur une surface de métal préalablement creusée à l'eau forte et au burin et principalement pour les armures et les armes. Cet art de la damasquinure est bel et bien attesté à Paris au milieu du XVIe siècle, c'est vrai, mais il est encore suffisamment marginal pour que la corporation des doreurs sur métaux, créée en 1565, n'en fasse pas état dans l'épreuve du chef-d'œuvre. Durant tout le règne de François Ier, l'expression « à la damasquine » s'est appliquée aux motifs ornementaux d'inspiration orientale, quelle que fût la matière travaillée par l'artisan. Guy-Michel Leproux, que je continue à suivre ici, relève dans les contes royaux aussi bien un poignard ouvré à la damasquine ayant le manche de jaspe gravé et chargé d'or, qu'un miroir au cadre d'ébène taillé à la damasquine, un collier d'or taillé à la damasquine ou une caisse de cuir ouvrée à la damasquine. Et Rivaudot, dans sa série ternaire, hein, je le rappelle, ici le burin dur, ici l'art qui émaille, ici la damasquine, évoque donc moins des objets que des techniques. Hein, ce qu'il évoque, c'est le travail de la main, pas l'objet proprement dit. La technique du burin, il vient de parler des portraitures de bosses et de reliefs. Je suppose que ce sont des visages de profil qui sont sculptés en relief dans des médaillons en pierre, par exemple en marbre. Et puis ensuite, la technique de l'émaillage. À ce propos, on peut rappeler que Michel Tiraco a été en relation avec Bernard Palissy dès 1555. Et en 1560 encore, l'émailleur Saint-Onger signe un contrat fait et passé en la maison de noble homme, monsieur maître Michel Tiraco, écuyer sénéchal de Fontenay-le-Comte. Et enfin, la damasquine, puisque c'est l'expression qui nous intéresse ici, nomme cet art qui consiste à graver et à tailler, comme le dit la suite du vers. Il emploie le verbe tailler, et conformément au lexique récurrent des contes royaux, des motifs que l'époque appelle aussi bien des mauresques, sans préjuger du fait qu'il s'agirait précisément d'un travail concernant le métal d'arme quelconque. Et si la damasquinure évoquée par Rivaudot s'applique à des armes, c'est évidemment tout à fait possible, hein, eh bien ces armes sont tout simplement tues. Elles disparaissent derrière le nom du savoir-faire spécialisé dont, dans cette hypothèse, elles seraient le produit. Il n'y a pas non plus de saguet ou d'arc et de flèches en bois de Brésil ou en ébène dans la fin du passage qui fait la part belle aux exoticas d'Afrique et d'Amérique. On trouve des vêtements, des parures de plumes, des tapis, mais d'armes point. Ce qui est un petit peu étonnant. Si Michel Tiraco ou son père, hein, qui lui a transmis par héritage la moitié de ses collections, l'autre moitié revenant à un de ses 10 frères et sœurs, c'est une famille nombreuse. Donc s'il a cherché à pourvoir son cabinet d'artefacts américains, il était sans doute plus facile de mettre la main sur un arc, sur des flèches ou sur une massue amérindien que sur des plumasseries ou des vêtements faits de petits os minutieusement assemblés que le poète a retenus pour son poème. On peut comparer avec d'autres cabinets de la même aire géographique, approvisionnés probablement par les marins qui arrivent à La Rochelle, moyennant un bond dans le temps d'un demi-siècle. Je vais évoquer l'apothicaire poitevin Paul Contant, qui fait apparaître à la fin de son Hexagogue Mirabilium, le catalogue exhaustif de sa collection, deux javelots indiens. Un peu plus loin, alors, dans une suite, un bouclier indien, Clypeus indicus, un poignard lui aussi américain, qui ressemble au poignard que les Romains appelaient Puyo, Puyo Siwesica Indica, un autre poignard américain, une massue en bois d'ébène, hein, Clawa ex ebeno, et une deuxième massue, celle-là, ex ligno orobotan. Orobotan ou orobotan, on reconnaît l'araboutan qui est décrit par Jean de Léry dans son récit de voyage au Brésil, c'est-à-dire le bois de Brésil, ce bois rouge qu'on appelle de nos jours le Pernambouc. Le dernier objet, du catalogue, c'est un collier de dents qui devait faire grande impression, hein, auprès des gens de qualité, comme auprès des visiteurs quelconques, je dirais. Un des confrères apothicaires de Contant, à Sainte, Samuel Vérel, nous a laissé un catalogue beaucoup moins ambitieux, où il mentionne lui aussi en fin de liste, dans une dernière rubrique intitulée « Artificia exotica », donc des objets qui relèvent d'un art ou d'un savoir-faire exotique, et juste avant l'inévitable collier de dents, parce que lui aussi il le possède, un arc américain avec trois flèches en roseau, dont la pointe est faite de dents de requin, un carquois des Tartares, dit-il, avec ses flèches et un arc. Et plus tard, un dénommé Bernon, tu en as peut-être parlé, Myriam, déjà ce matin, hein. Donc pardonne-moi, je ne sais pas ce que tu fais. Tu en parlais tout à l'heure. Bon, alors très rapidement, simplement, son recueil de pièces curieuses promet au titre qu'on y découvrira des raretés, je cite, servant à la personne d'un général des sauvages, et il termine par le lit de l'Indien en question, un triomphe de dents des chrétiens tués en guerre et des ennemis qu'il a mangés, et puis quelques objets usuels, et pour finir, sa gypsière qu'il portait allant à la chasse, sa bouteille où il mettait sa poutre, sa massue faite de bois de Jacques Landa, alors ça doit être le bois de Jacques Aranda, Donc Claude Dabville parle dans son histoire de la mission des pères des Capucins en l'île de Marignan. Son carquois avec ses flèches, des arcs faits en croissant, des arcs en bois de Brésil, fort longs avec des flèches aussi fort longues. Bon. Je passe, encore une fois, tout ça pour dire que La Rochelle voit débarquer des marins qui ne se contentent pas de rapporter les marchandises, les denrées, hein, pour le compte des négociants qui financent les expéditions. Par exemple, quand Jean de Léry quitte le Brésil le 4 janvier 1558, le bateau sur lequel il va risquer sa vie, parce qu'il est complètement pourri, il fait voie d'eau de toutes parts, est chargé, dit-il, de bois de Brésil, je le cite, bois de Brésil, poivre long, coton, guenon, sagouin, perroquet et autre chose rare par-de-ça. Alors évidemment, autre chose rare de par-de-ça, c'est-à-dire chez nous, c'est très vague, mais on sait que parmi les choses en question, il y a des objets, on sait au moins qu'il y a des boucliers en peau de tapir, puisque la famine est telle sur le bateau du retour qu'il mange ces boucliers en peau de tapir après avoir boulotté les animaux exotiques, puis les rats, etc., enfin tout ce qui pouvait être produits animaux et présent, avoir quelques protéines, offrir quelques protéines, pardon. Et le bateau parvient au niveau d'Audierne, donc Finistère Sud, et les marins ne débarquent pas là, hein, ils envoient une barque pour s'approvisionner, mais ils descendent, ils mettent le cap sur La Rochelle, mais ils n'y arrivent pas parce que, enfin c'est là, c'est à La Rochelle qu'ils veulent décharger le bateau et vendre les marchandises, le bois de Pernambouc, mais il y a des pirates, donc finalement ils remontent en direction du Morbihan et ils débarquent du côté de l'Orient. Alors, l'Iris, c'est intéressant parce que c'est parfaitement contemporain ce voyage de la collection poursuivie par Michel Tiraco. Donc pour en revenir au cabinet de Tiraco, de trois choses l'une, où la collection n'accueille absolument aucune arme, pourquoi pas, hein, que ce soit des armes européennes ou exotiques, et on peut dire que ça ne correspond pas vraiment avec l'intérêt du propriétaire, au moins avec les artefacts amérindiens, comme en témoigne le prélèvement qui est fait par Rivaudeau pour rendre compte du cabinet, ni une fois qu'on a admis cet intérêt avec le fait que les marins qui participent à l'exploitation et au trafic du bois de Brésil et qui débarquent à La Rochelle n'ont sans doute pas attendu la fin du XVIe siècle pour répondre à une demande qui leur était facile de satisfaire contre argent sonnant et trébuchant. Ou bien la collection comprend bel et bien des armes et leur absence dans la description partielle de Rivaudeau est à mettre au compte de raisons poétiques, des hasards de l'inventio, des contraintes de la versification, pourquoi pas. Ou bien c'est une absence qui est parfaitement calculée, elle procède d'une intention, et cette intention, évidemment, n'est pas le fait alors du propriétaire, mais du descripteur, et étant le fait du descripteur, peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire, quand même, indirectement, sur le fait de posséder et d'exhiber des armes dans un cabinet de curiosité. Et c'est cette troisième hypothèse que je vais creuser, sans chercher à dissimuler ce que ce type de raisonnement peut avoir d'extrêmement léger. Mais je tends d'avance le dos pour les critiques éventuelles. Bon, quand même, c'est un poème de célébration de la personne de Marie, comme vous le dit le titre, qui est la cousine du poète André de Rivaudeau. Michel Tiraco, c'est le papa de la dite Marie, dernière née de 4 enfants d'un premier lit. Alors, la maman s'appelait elle-même Marie Rivaudeau, avec un B. De Rivaudeau à Rivaudeau, il n'y a qu'une seule lettre, et il s'agit bien de la même famille. C'est le père du poète, qui était valet de chambre de Henri II, par qui il avait été anobli, qui a troqué le B de son patronyme pour un V, histoire d'éviter la proximité avec un terme malsonnant, le terme Ribaud. Hein, Rivaudeau, ça faisait Ribaud. Donc ça fait un peu tâche à la cantine, évidemment, il se fait moquer par les grands. Ça invite aux plaisanteries faciles. Mais après tout, il y a des exemples contemporains et célèbres ou immédiatement précédents. Les Rossards, par exemple, R-O-2-S-A-R-T, qui portaient un blason aux armes parlantes, un blason aux trois rosses, c'est-à-dire ces petits gardons avec les nageoires très rouges, et qui signaient Roussard, parce qu'ils sont établis dans un pays ouiste, où on prononce les O en OU, donc ils signent Roussard. N'ont pas mis trop longtemps à changer le U en N, peut-être pour éviter les plaisanteries faciles, je ne sais pas, mais se sont appelés Ronsard. On fait tomber le S superfétatoire derrière le N, parce que N2S, ce n'est pas très courant, évidemment. En français, ça ne sert à rien. Donc on s'est appelé les Ronsards, quitte à s'offrir une très jolie cheminée avec un manteau sculpté de deux frises superposées, l'une de frise de rose et l'autre en dessous de frise qui représente des flammes, donc des roses, des ronces qui ardent, la ronce art. et ce qui fait une magnifique exploitation de ce patronyme qu'on a fini par acquérir. Et vous savez que Pierre de Ronsard, donc le poète vendômois, achève la transformation du nom en substituant la terminaison en ART, une terminaison en ARD, qui est beaucoup plus classe, beaucoup plus à la mode. ART, ça faisait dépasser. Voilà. Donc Michel Tiraco, j'en reviens à lui, c'est l'oncle par alliance d'André de Rivaudot, puisque sa première femme était une sœur de Robert Rivaudot, ci-devant Ribaudot, et la fille Marie est donc une cousine du poète. Les deux jeunes gens ont en commun un grand-père qui a fait en son temps la gloire de Fontenay, André Tiraco, donc célèbre juriste, je ne développe pas ça. Après avoir perdu sa femme, Michel s'est remarié avec Gabrielle de Brachechien, elle-même veuve d'André Rouault, seigneur de la Rousselière, dont elle avait eu 4 enfants, et on marie Marie avec l'aîné de ses enfants, Louis Rouault, qui a hérité de la Rousselière. C'est pourquoi Marie est nommée dans le titre du poème, de l'hymne que Rivaudot lui dédie, Mademoiselle de la Rousselière. Voilà, vous savez tout sur la famille, ou presque tout. Cette façon de désigner Marie, c'est déjà une forme de célébration, hein, Marie de la Rousselière. Le titre de l'hymne entre dans le vif du sujet, car Rivaudot, dans ce texte, ne fait pas autre chose que d'appliquer une formule, une recette explicitée par Ronsard en 1550, dans l'appareil préfaciel de ses 4 premiers livres des Odes. Pour faire l'éloge d'un personnage, dit Ronsard, le poète doit commencer par célébrer le ou les lieux auxquels ce personnage est attaché. Et c'est exactement ce par quoi le poème de Rivaudot commence. Si vous avez la patience de le lire, vous verrez que ça commence par une longue célébration de Fontenay-le-Comte, une 60aine de vers. Et puis ensuite, dit toujours Ronsard, à défaut de trouver dans le personnage lui-même matière suffisante à l'encomion, hein, la pratique de la louange, eh bien il doit, et ça c'est l'expression même de Ronsard, entrer dans sa race. Il doit entrer dans sa race, c'est-à-dire faire l'éloge de ses ancêtres. Je lis le petit texte de Ronsard, et s'il ne connaît en lui, donc celui qu'on veut célébrer, hein, autre chose qui soit digne de grandes recommandations, il doit entrer dans sa race et la chercher. Quelqu'un de ses aïeux, jadis brave et vaillant, ou l'honoré par le titre de son pays ou de quelque heureuse fortune survenue soit à lui, soit au sien, ou par autre vagabonde digression, industrieusement brouillant hors ceci, hors cela, par l'un louant l'autre, tellement que tous deux se sentent d'une même louange. Vous voyez, c'est de la haute stratégie, hein, que de pratiquer la louange de quelqu'un sur qui il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Et comme le personnage alloué, en l'occurrence, est une femme, et qu'après avoir encensé sa beauté, ses aptitudes intellectuelles, ses capacités mémorielles, ses talents de chanteuse, ce qu'il arrive à délayer quand même sur presque 100 vers, c'est une performance, Rivaudot se trouve à court d'arguments et il lui suffit de chausser les bottes de Ronsard et de déclarer que Marie doit toutes ses rares qualités à ses aïeux. Et puisque les enfants représentent le corps et l'esprit des parents, ça c'est une citation de Rivaudot, d'embrayer sur ses ascendants, à commencer par le célèbre grand-père juriste, puis son fils aîné, le père de Marie, Michel, hein, lui-même parfaite réplique, on l'aura compris, de l'esprit de son père, dont il poursuit d'ailleurs les collections de livres et d'objets de curiosité. Je cite 5 vers à partir de 160. « Ne laissant un trésor comme Euclion rouillé en un coffre moisi où il n'ose fouiller, ince, c'est-à-dire mais, hein, toujours dans la langue du XVIe siècle, mais départant ses biens à 100 veuves chagrines, aux malades piteux, aux maisons orphelines, et faisant un recueil de force livres bons tirés de 1000 endroits de la France et du fond, etc. » Et j'ai déjà lu ces quelques vers qui embrayent sur le cabinet de curiosité. Alors cette façon, vous voyez, d'insister sur la libéralité du personnage, juste avant d'aborder ses collections, permet de le dédouaner du défaut d'avarice, hein, qui serait le moteur d'une mauvaise curiosité. De même, le fait de faire précéder la description du cabinet par l'évocation d'une riche bibliothèque est tout à fait stratégique. Les deux collections sont ainsi censées procéder d'un même geste et d'un même esprit, ceux de l'humaniste à la noble conquête du savoir. Aussi, Michel a-t-il hérité de son père, je cite Rivaudot, une ardeur des arts qui le fait bouillir. Hein, ardeur des arts et bouillir sont deux termes qui sont à retenir, parce qu'on reconnaît là un lexique très spécialisé et très à la mode à cette époque-là, le lexique du fureur, le lexique de la fureur. Hein, c'est la phraséologie néoplatonicienne de l'inspiration, avec pour modèle la Pythie ou la Sibylle, dont le corps a été investi par le dieu Apollon, et le dieu Apollon qui, de l'intérieur du corps, pique avec son aiguillon de Bouvier, hein, pique la Sibylle, la prêtresse, et la force à proférer ses oracles. Hein, c'est un modèle du poète inspiré. Bon. C'est cette figure paradigmatique par laquelle Ronsard et ceux qui l'enrôlent dans ce qu'il appelle sa brigade ou sa pléiade valorisent la figure du poète, une figure que Rivaudeau, vous voyez, n'hésite pas à approprier à ces deux phares du milieu intellectuel fontenaisien que sont les Tiraco, père et fils. On comprend aisément que le cabinet de curiosité a dans le poème, et veut sans doute avoir d'ailleurs dans l'espace social, le même rôle que la bibliothèque, démontrer cette ardeur des arts, qui fait du fils, comme du père avant lui, un intellectuel au-dessus du commun des mortels. Et si les ancêtres du côté des Tiraco, on le sent échauffé par le fureur d'Apollon, Rivaudeau n'hésite pas longtemps, après s'être débarrassé en 9 vers des rares mérites de la mer, hein, né Rivaudeau, je le rappelle, à entreprendre d'annexer à l'éloge de sa cousine l'éloge de sa belle-famille, les Rouault, qui, noblesse oblige, inspiré par la fureur de Mars, se distingue par le maniement des armes. Alors certes, les Rouault, du point de vue génétique, n'ont absolument rien à voir avec Marie, hein, mais avec la première famille par alliance de sa brache chien de belle-mère, et en particulier les enfants qu'elle a eus de son premier mariage, autrement dit, il s'agit bien, conformément à la recette ronsardienne, de brouiller industrieusement les choses afin de louer l'un, ou plutôt l'une, hein, Marie, par les autres, par les Rouault. Et puisque Marie a épousé le fils aîné de cette fratrie, et ce qui est le beau-fils de son père, il s'agit aussi, on s'en serait douté, de pouvoir clore le poème en beauté, en évoquant la synthèse parfaite des arts et des armes que ne manquera pas de réaliser le fruit de l'union de Marie et de Louis Rouault. Je lis la fin, les 4 derniers vers. « Puisses-tu reverdir de lignée éternelle, gentil comme toi, gentil signifie noble, hein, presque à tous les coups, dans les textes du 6e, donc gentil comme toi sainte et belle, qui hérite les arts de tes premiers aïeux et le savoir guerrier des Rouault valeureux. » Et au milieu de la copieuse louange des très nobles Rouault, dont la brave vaillance se renomme du bras de leur premier ancêtre, je cite, donc au cœur du récit des exploits et faits d'armes qui jalonnent la vie de cet illustre ancêtre prénommé Joachin, et qui s'est illustré à la fin de la guerre de Cent Ans, il a été fait successivement connétable, gouverneur, grand écuyer, maréchal sous Charles VII, et au début du règne de Louis XI, Rivaudeau mentionne une épée, et pas n'importe laquelle, l'épée royale, que celui qui a été élevé à la dignité de grand écuyer porte en écharpe, c'est une marque de sa dignité, dans son fourreau de velours azuré et fleur de lys d'or, lors des cérémonies les plus solennelles, et dont il porte encore la figure de part et d'autre de son blason. Bref, du côté des Rouault, on a aussi le sang qui bout à la mode de cet ancêtre prestigieux à qui, je cite Rivaudeau, Bellone, donc dieu de la guerre, souffla sa martiale ardeur, et vous voyez qu'on retrouve le mot ardeur, une expression symétrique de l'ardeur des arts qui anime les ancêtres du côté Tiraco. Et symétrie renforcée par le déplacement, dans le tout dernier vers, des prérogatives des intellectuels roturiers dans le camp des nobles, le savoir guerrier des Rouault valeureux, le savoir guerrier. Ce en quoi Rivaudeau, qui peu de vers avant cette chute a réussi à parler de lui, à se poser en rival de Ronsard, à se présenter lui-même comme un écrivain qui brigue la science des arts, et vais brigand des arts la science, dit-il. Donc Rivaudeau reprend ce qui a été un topos sous les rois qui ont succédé à François Ier, la nécessaire alliance des arts et des armes, comme avait su la réaliser celui qu'on appelait aussi bien le roi guerrier que le restaurateur des lettres. Vous voyez, il avait la double casquette, c'était François Ier, avant que le royaume de France hérite de la translatio imperii, ce transfert de la monarchie universelle, hein, le vieux rêve de tous les Valois, hein, à quoi prétendent les Valois jusqu'à la fin de leur lignée, et dont les intellectuels s'emploient à démontrer qu'elle ne saurait s'accomplir sans une translatio studii, hein, ce transfert de la culture qui incombe précisément aux humanistes comme les Tiraco, et des humanistes qui se plaignent régulièrement que leur concours n'est pas apprécié à sa juste valeur par le pouvoir politique. Donc, l'hymne de Marie Tiraco, damoiselle de la Rousselière, offre, il me semble, une très intéressante approche humorale de la collection ancienne, comme le produit du furor apollinien, pour faire pendant aux exploits militaires et aux faits d'armes générés par le fureur de Mars, et par là même hisser l'activité des intellectuels au niveau de celle de la noblesse. C'est une approche extrêmement originale et très artificielle, il faut bien le dire, mais idéologiquement fondée, parfaitement fondée, pour laquelle il fallait débarrasser de toute arme la représentation discursive du cabinet. Le caractère éminemment stratégique de cette représentation permet au moins, me semble-t-il, d'alimenter une réflexion sur la valeur éventuellement symbolique des armes de cabinet, sur leur fonction, sur le discours muet que leur collectionneur de propriétaires peut leur faire tenir par rapport à la classe sociale à laquelle éventuellement elles renvoient, bref, sur leur statut d'objet sémiotique. Merci.
Merci Pierre. Peut-être si vous avez des questions ou ajouts.
Oui, je vous ai pas. Je vous ai. Non, vous ai assassiné c'est... par les âmes de la poésie, mais pas par.
Non, c'est intéressant parce que du coup, ça. Mais est-ce que, par exemple, dans d'autres textes comparables, je ne sais pas si on en a beaucoup. En fait, là, c'est vraiment les. Les spécialistes des cabinets qui pourront le dire, on en parlait un peu à table, où on a justement le phénomène inverse, c'est-à-dire où on va prendre en compte les armes et justifier leur présence. Là, on comprend parce que effectivement, votre interprétation sur leur absence peut être justifiée par l'articulation du poème avec la glorification des ancêtres batailleurs de l'héroïne. Mais est-ce qu'on a le cas où effectivement on a un discours spécifique sur ces armes? Dans certains cabinets éclectiques, où on les présente, où on les mettrait en évidence pour leur caractère guerrier et pour leur caractère.
Un discours explicite, ça ne me vient pas à l'esprit. Ouais. La présentation des armes, une présentation appuyée, peut-être tendancieuse, peut-être qu'on en a un exemple avec. Un cabinet, j'en parle parce qu'on en a plusieurs représentations discursives et aussi iconographiques, partielles, mais suffisantes pour se faire des idées. C'est le cabinet, ou plutôt les cabinets de Nicolas Chevalier, qui est un collectionneur qui est actif à Amsterdam à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Il a un cabinet à Amsterdam, il l'installe, il le déménage. Il y a une description manuscrite qui est conservée à la Bibliothèque royale de La Haye. Je l'ai mise en ligne, je crois, sur le site Curiositas. Et la même année, il publie une description sommaire. Et on voit que la configuration des lieux a changé. On passe d'une pièce carrée à une pièce en L. Et la composition même des objets qu'il retient a changé. Il y a des objets importants, on peut supposer qu'ils devraient rester. Ils sont partis, ils ont été vendus, parce que c'est aussi un commerçant, hein, il faut aussi de l'argent. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les armes dans cette configuration bougent, changent de place. Et quand on va voir comment ça se passe dans le cabinet, ensuite, il déménage à Utrecht. Hein, donc là encore, les armes sont déplacées, c'est plus le même endroit, et puis il revient à Amsterdam. Et à nouveau, les armes sont déplacées, mais à chaque fois, j'ai l'impression, mais j'ai peut-être des interprétations qui sont tout à fait tendancieuses, mais il me semble, lorsqu'on étudie la configuration des lieux minutieusement, il y a toujours quelque chose qui attire l'attention sur ces armes-là, ne serait-ce que parce que souvent, enfin, dans le premier cabinet et le dernier cabinet, les armes sont installées au niveau de la porte, et de telle façon qu'elles sont à l'intérieur, c'est une porte qui s'ouvre en dedans, donc quand on ouvre la porte, évidemment, on ne les voit pas. Et quand on sort du cabinet, la porte est fermée, et là, on voit les armes. Il est décrit. Alors, qu'est-ce que ces armes ont à nous dire? Pourquoi est-ce qu'il attire comme ça l'attention? Bon, je le mets volontiers en relation avec le caractère extrêmement arriviste du personnage, qui n'a pas cessé dans toute sa vie d'essayer de se placer, hein, de se placer auprès des hautes sphères, les grands numismates, les grands collectionneurs, et c'est un collectionneur au petit pied, il ne connaît pas grand-chose, il finit par connaître des choses, mais il y a une correspondance, par exemple, avec des numismates, il y a une correspondance qui montre il n'écrit pas en français ou il écrit à peine en français. Il est, il arrive quand même à avoir une culture, hein, mais ça ne suit pas, quoi, finalement. La logistique ne suit pas. Il n'arrête pas de se choisir des mécènes qui sont différents. Il dédie ses bouquins à des personnalités différentes parce qu'il essaie tout le temps désespérément de se placer, de réussir. Je crois que c'est quelqu'un qui est typique du curieux, roturier, qui aspire à gravir dans l'échelle sociale. Et il se sert de son nom, Chevalier, pour se bricoler une enseigne de marchand. Sa raison sociale, c'est au chevalier curieux. Le chevalier curieux. Et il se dessine un blason, une devise, il se représente à cheval, sous les traits d'un chevalier. Véritablement, là, il y a une espèce d'idéal social, d'ascension sociale. Peut-être que la place des armes dans l'économie très matérielle de son cabinet de curiosité a quelque chose à nous dire de cela. Mais qui peut être sûr de ce genre de choses?
Merci. Oui, j'aurais une petite question. Je me demandais, parce que tu disais que la moitié de la collection avait été transmise à quelqu'un d'autre, en fait. Est-ce que les armes ne seraient pas dans l'autre moitié? Enfin, tout bêtement.
Alors là...
Non, mais je ne sais pas comment le choix a été fait. Moi, je ne connaissais pas cet élément-là.
Moi non plus.
Sur l'histoire de cette collection. Je ne l'avais jamais rencontré.
Eh bien, il y a un...
Tu dis qu'il a été offert à son frère, à son...
Je crois que c'est un frère, oui, qui a récupéré la...
De Tiraco.
La moitié de la collection. Mais peut-être que Michel Tiraco a racheté, hein, de même que... Je crois que Michel Tiraco avait hérité la moitié de la bibliothèque et l'autre moitié avait été donnée à la partie issue des Brachouchiens. Hein, donc les enfants issus de son mariage avec Madame de Brachouchien, et alors on a des documents qui sont conservés à Fontenay. Cette partie de la bibliothèque a été rachetée par.
Non, mais c'est une question. C'est pas du tout pour faire effondrer toute ta théorie.
Non, non. Non.
Non, mais c'est vraiment une question pratique parce que je savais pas que la collection avait été divisée en deux. Tu vois, c'est.
Eh bien, écoute, j'essaie de rechercher là le nom.
T'as pas d'inventaire.
Non, je crois pas que ça a été inventé parce que ça, c'est quelqu'un qui travaillait, qui s'appuyait sur les documents qui sont conservés à Fontenay-le-Comte. Hein? Donc non, ça n'a pas été inventé. Bon, je ne retrouverai pas.
Moi, je voulais vous demander, c'est très intéressant parce que je ne suis pas du tout familier avec ce genre de littérature et cette manière d'aborder les cabinets de curiosité, mais j'ai souligné en la lecture notamment des provenances, les lézards du Brésil, les mêmes barbares monstres. Mmh. Ensuite, on parle du mort et du juif, oui. Les habits sauvages, le Pérou et la Guinée, le bol arménien, le terroir indien. D'après votre expérience, hein, je pose aussi la question aux uns et aux autres, ces mentions géographiques, quelle valeur on peut leur accorder, qu'est-ce que ça englobe? J'imagine que voilà, quand on parle du Pérou, du Brésil, évidemment, ça peut être des conceptions qui ratissent large, si je puis dire, géographiquement parlant, quoi.
Oui, surtout, il faut imaginer que ces gens-là achètent des objets ou font acheter des objets, ils ne vont pas se déplacer eux-mêmes. Ils acquièrent avec les objets la provenance qu'on veut bien leur dire. Hein, il est probable qu'on désigne par le mot de Guinée un très vaste espace géographique, c'est l'Afrique noire. Hein, cela dit, quand ils parlent du Brésil, il y a plus de chances pour que, effectivement, ce soit des artefacts qui viennent de la côte d'Amérique du Sud. Parce qu'il y a là un commerce qui est établi, mais déjà sous François Ier, c'est un gros commerce. Le trafic du bois de Pernambouc, là, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus et qui ont montré qu'il y a une véritable déforestation catastrophique, à tel point que les autorités portugaises, qui normalement ont le monopole sur la région, s'alarment. Je ne sais plus, on a compté qu'on... en moyenne, on abat 50 arbres par jour. Hein, dès cette époque-là. C'est énorme. Hein. C'est vraiment, ce sont des quintaux et des quintaux de bois que l'on rapporte en Europe.
Et parlons de ça, parce qu'on a mention en particulier à Rouen et en Normandie de outre le bois de Brésil, mais aussi de, d'Amérindiens qui viennent ici. On a cette fameuse fête Toupie en 1550 à Rouen pour l'entrée, je crois, de Henri II.
Sauf, c'est ça, oui.
Dans la région ici, sur la Rochelle ou des régions comme ça, on a mention d'Amérindiens qui, parce que je trouve ça aussi assez passionnant de voir qu'il y a aussi des individus qui traversent l'Atlantique.
Alors, moi, je n'en connais pas. Je connais juste Montaigne. Il faut aller plus bas. Hein, et encore, Montaigne dont on a montré de façon, je crois, assez probable que son histoire d'entrevue entre le roi et puis des Indiens, il faut la déplacer de Rouen à Bordeaux. C'est pas possible que ça soit passé à Bordeaux. Alors il y a un déplacement qui reste à interroger. On se demande pourquoi il n'a pas l'habitude de mentir, ou du moins de mentir entièrement comme ça, Montaigne. Ça ne peut pas être une erreur non plus, un lapsus. Pourquoi est-ce qu'il déplace? Peut-être parce qu'il veut, mettre l'accent sur le fait que le roi est un enfant, un adolescent. Donc il recule encore hein, cet âge dans le passé en faisant coïncider cette rencontre des Indiens avec le roi à une époque où, effectivement, le roi est à Rouen, mais c'est pour s'entendre proclamer sa majorité. Donc à 13 ans, si je me rappelle bien. Parce que normalement, c'est 14 ans. Oui, mais alors, il y a les Romains pour qui, quand on a passé le cap des 13 ans, quand on est à 13 ans et un jour, ça y est, on est né à la 14e année, donc on peut déclarer le roi majeur. Alors, c'est peut-être pour ça, parce que juste avant, dans le passage, Montaigne rapporte trois propos des Indiens, donc qui sont propos qui représentent leur sagesse, finalement, hein, une espèce de sagesse naturelle. Et parmi l'un des propos, les Indiens s'étonnent de ce que le peuple accepte de se faire commander comme ça par quelqu'un d'aussi jeune, un enfant.
Oui, pour les Indiens, pour le 16e, je ne sais pas exactement pour la Rochelle, mais au 17e, 18e siècle, on a effectivement des traces d'Amérindiens qui arrivent à la Rochelle, qui reste parfois à la Rochelle. Michael Augeron a bien montré ça en travaillant sur les archives de la Rochelle. Donc il y a des traces. Et puis juste pour répondre à ta question sur le Pérou, notamment, le terme de Pérou est un terme extrêmement générique. Hein. Au XVIe, XVIIe siècle, on parle des îles du Pérou, par exemple pour parler des Antilles, puisque les Antilles sont la porte vers le continent qui lui-même est désigné comme le Pérou, de manière très, très générale.
Oui. En fait, Le Pérou a tendance à désigner la zone géographique à laquelle ont droit les Espagnols, hein, de façon générale. Voilà, il y a la sphère d'influence d'exploitation des Portugais et celle des Espagnols, selon les limites fixées par le traité de Tordesillas, avec une limite que les géographes ne cessent de déplacer insidieusement. Et que les Français ne cessent de transgresser.
Bien. Merci. On va passer au casse-tête.
Bon après-midi. Merci d'abord au nom de Benoît, André et moi de nous avoir fait venir de si loin. Et comme on est à Caen, on va vous parler d'encore plus loin. On va quitter les chauds cabinets français pour aller vers les chaudes terres françaises aussi d'ailleurs, en partie. Et on a choisi de vous parler de ces armes. On a beaucoup parlé des armes une fois qu'elles sont arrivées dans les musées, mais il y a tout un processus avant pour qu'elles arrivent. Et c'est vrai que les armes amazoniennes et antillaises ont eu beaucoup de succès et ont été produites, je dirais, en quantité industrielle, peut-être un peu au-dessus des nécessités des Amérindiens eux-mêmes. En tout cas, elles ont... est-ce que ça marche ? Non, je crois que ça ne marche pas. Attends, il faut peut-être l'allumer déjà. Et ça devrait marcher beaucoup mieux maintenant. Donc, les plus connus, quand même, sont évidemment les massues Tupinamba, de ces peuples qui occupaient la frange côtière du Brésil et qui ont toujours été célébrés pour leur usage, célébrés tant d'ailleurs en Amérique qu'en Europe, pour l'usage que l'on verra plus loin. Alors, on va se concentrer sur des aires moins connues, j'ai envie de dire, de la collectionniste européenne, puisqu'on a souvent parlé essentiellement du Mexique, des pièces du Mexique, celle du Pérou et puis celle de la côte brésilienne, mais il y a une grande aire tropicale aussi qui est souvent négligée, pourtant une des premières qui a été atteinte par les Européens, qui sont la Caraïbe d'une part et dans la continuité les Guyanes. Et d'ailleurs, elles ont souvent pris le nom de l'autre. Beaucoup de pièces désignées comme guyanaises sont peut-être d'origine caribéenne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a souvent désigné les collections par le nom de la destination finale d'une expédition et pas forcément des étapes qu'elle avait faites. Donc, pour ça que les Guyanes sont souvent à destination finale avant de revenir. Et du coup, tout est désigné sous le grand chapeau à large bord des Guyanes. On va parler à plusieurs voix. Ça a été préparé ensemble, mais on va diviser notre discours en plusieurs thèmes. Et le premier, qui est peut-être le point de démarrage et d'accrochage essentiel pour parler de ce thème, sont les armes elles-mêmes, l'armement amérindien au moment du contact. Qu'avait-il comme arme ? Alors, on a toujours évidemment mis en avant la fameuse sarbacane pour souffler des dards empoisonnés de curare, qui n'est, à vrai dire, pas du tout une arme de guerre, puisque c'est une arme de chasse. On l'a toujours présentée dès les premiers textes. On parle du curare, de la présentation du curare. Ça va assez loin, puisqu'on dit que des vieilles femmes s'isolent dans la forêt pour préparer le curare, et à cause des émanations de la préparation, elles en meurent. Mais quand elles sont vieilles, ce n'est pas très grave. Et ça, on va le retrouver, mais dans plein de chroniques, alors qu'elles peuvent être jeunes, et puis elles peuvent être surtout des hommes, puisque c'était les hommes qui préparaient le curare, et dont les effluves ne sont absolument pas mortelles. Donc ça a beaucoup surpris cette arme et on l'a transposée sur vous voyez, même jusqu'à récemment on le présente comme l'arme définitive et fatale. À vrai dire, elle est intéressante quand même comme arme. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu. C'est qu'elle a des avantages que n'a aucune autre arme. Elle est d'abord silencieuse, alors qu'un coup de fusil, si vous tirez sur un groupe de singes, vous pouvez en avoir un dans le meilleur des cas, mais les autres s'enfuient. Avec une sarbacane, vous pouvez en avoir plusieurs. Ça n'abîme pas le gibier. C'est intéressant pour les oiseaux. On ne va pas abîmer les plumes. Et la troisième, c'est que le curare est un relaxant musculaire. Et donc, le problème quand vous chassez en Amazonie, c'est que souvent, votre proie va se coincer dans les arbres. Parce qu'au moment de mourir, elle se raidit et donc elle se retrouve coincée dans des branches. Grâce au curare, ça ramollit la proie qui va glisser le long des branches et vous pouvez toujours récupérer votre proie. Donc c'est une. Et alors, le dernier avantage, c'est que ça n'empoisonne pas la viande. Donc c'est l'arme idéale pour l'utiliser. C'est très pratique. Je ne sais pas si c'est autorisé en France. En tout cas, ce n'est pas une arme de guerre. L'armement amérindien est finalement assez banal, puisqu'il se différencie très peu de l'armement
européens de la même, de quelque, pas de la même époque, mais du Moyen Âge. On va y retrouver à peu près les mêmes armes. En gros, le guerrier amazonien, il va avoir tout d'abord un arc. Alors pour se battre du plus loin au plus près, de loin il va utiliser un arc, plus près des lances de différentes formes. En se rapprochant encore, il va utiliser, et là on va s'arrêter un moment, des épées de bois. Plus près, ça sera la massue et le bouclier pour s'en défendre. Ça, c'est un très beau bouclier du musée d'Aubray à Nantes, sur lequel on voit des marques de coups. Donc il a bien servi ses apparats d'équateur. Et enfin, il y a la hache. Alors la hache, qui n'est pas une arme, mais qui a traité quand même dans cet armement, puisque c'était comme un écu ou un gonfalon. On se servait de ces haches pour désigner sa victime. Beaucoup de peuples G, notamment de la famille linguistique G, prenaient cette hache qui est complètement déséquilibrée. Vous vous rendez bien compte qu'une lame de pierre de cette facture et de ce poids faisait une arme très imprécise. Mais à vrai dire, elle était utilisée pour le déposer sur la victime, pour dire « elle est à moi, cette victime ». Soit pour la gloriole, soit pour la manger après. C'est un peu le libre service tropical, quoi. Toujours est-il que elle est utilisée de nos jours dans des danses, rarement, mais dans quelques danses rituelles, et absolument pas comme arme. Donc il faut l'écarter, mais elle est importante parce qu'elle fait partie de la guerre amérindienne que nous n'avons pas traitée par ailleurs. Et puis la hache, en général, est un outil qui n'est jamais une arme, puisque, comme je l'ai dit, une lame de pierre, c'est quand même très équilibré. Alors, on a tendance, évidemment, avec la Francisque, avec nos vieux ascendants gaulois, à penser aux francs, la hache comme arme de guerre. Et non, en Amazonie, la hache, elle est un simple outil pour tailler le bois. Et Dieu sait si c'est du travail pour tailler le bois. Il faut savoir que les bois amazoniens sont très durs, remplis de silice, de quartz, quoi. Et donc la hache, elle sert à faire des gros travaux, comme tailler une pirogue ou tailler des pieux pour la maison, mais aussi pour abattre des arbres, pour faire son jardin, ses champs. Je vous ai dit que l'épée, alors c'est peut-être la plus grosse découverte qu'on ait pu faire ces dernières années, c'est personne ne pensait qu'il y avait des épées. Chaque fois qu'on parlait dans les textes d'épée, tout le monde transcrivait immédiatement par massue, casse-tête, alors qu'il y a eu vraiment des épées avec des bords très coupants et qui étaient utilisées comme des épées. Ici, vous avez quelques modèles trouvés par les orpailleurs dans le fond des rivières, au milieu anaérobie, donc très bien conservés, qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Hein. Et je peux vous dire qu'elles sont très coupantes. Et elles sont signalées, mais comme épées, dans certains textes qui montrent clairement leur usage. Et elles ont été un peu aussi occultées par le fait que parfois leur forme rappelle celle de certaines massues. Mais les massues ne sont pas coupantes. Donc c'est la grande différence entre les deux. On a pu en dater quelques-unes, et comme vous pouvez le voir, ça commence il y a très longtemps, l'usage de ces armes. Dès le début de notre ère, finalement, on a des mentions de ces, par les datations carbone 14, de ces épées. Mais notre sujet, ça va être plutôt la massue, qui est donc pour un combat encore plus rapproché celui de l'épée en général, puisque souvent les massues sont très courtes, et elles sont signalées même dans les gravures, même si elles sont assez discrètes. Hein. Vous voyez, on va plutôt voir ici le village enflammé, ou les diablotins qui aident les humains, mais il y a bien un combat au milieu de cette image de Tupinamba en combat avec des massues typiques d'ailleurs des Tupinamba. Et c'est un peu l'arme emblématique des Amazoniens qui a été évidemment mise en avant par les chroniqueurs. Et je vais donc passer la parole à celui qui va nous parler des chroniqueurs et des chroniques. Benoît, c'est bon ?
Tu as respecté le temps en plus, c'est nickel. Donc effectivement, dès la fin du 15e siècle et les premiers contacts, hein, toute une documentation à propos des Amérindiens et produite par les Européens va émerger. Ces textes et ces images décrivent donc évidemment depuis l'extérieur, hein, des populations qui, pour l'aire géographique qui nous intéresse, la Caraïbe et l'Amazonie, sont des populations de tradition strictement orale. Hein. Alors, l'analyse critique de tous ces textes constitue vraiment l'entrée incontournable pour une étude de ce type. Et on voit bien que dès les premiers contacts, hein, l'attitude hostile des Amérindiens va être l'occasion de décrire un petit peu leur armement. Les massues frappent, hein, si j'ose dire, particulièrement l'imaginaire des Européens, puisqu'ils y trouvent aussi un écho, hein, avec les représentations de l'Homo sylvestris, qui est toujours représenté, hein, avec ce gros bâton, cette massue, la massue d'Hercule aussi. Donc ça fait aussi, voilà, ce gourdin qui fait appel à tout un imaginaire qui est déjà présent en fait en Europe et que les Européens finalement retrouvent un petit peu en Amérique. Les premières représentations graphiques de ces massues connues aujourd'hui se trouvent dans un manuscrit qui est tantôt désigné comme l'Histoire naturelle des Indes, tantôt comme le Drake Manuscript, qui est donc un manuscrit anonyme à peinture de la fin du XVIe. On estime à peu près qu'il a été réalisé vers 1586 et qui est aujourd'hui conservé à la Morgan Library de New York. Ce document constitue, hein, comme l'a dit Franck Lestringant, un document de tout premier ordre sur la région Caraïbe, une centaine d'années à peu près après la découverte. Les massues y apparaissent sur quatre aquarelles, dont celle-ci, qui est intitulée « Les Indes de Yona ». Alors le contexte géographique n'est pas du tout précisé. Il faut imaginer que l'aquarelle accompagne un texte en dessous, ou l'inverse, un texte accompagne l'aquarelle. Et le contexte n'est pas clairement précisé. On peut, en revanche, évidemment, penser qu'il s'agit bien d'une scène qui se déroule soit dans les Antilles, soit dans les Guyanes au sens large. Donc on voit bien que l'Indien rappelle dans sa posture le Hercule terrassant. Hein. Pour le coup, ça va être une constante dans toutes les images qu'on va vous montrer. Hein. Les corps sont extrêmement stéréotypés. Ça fait écho au corps antique, évidemment. En revanche, les objets sont généralement extrêmement bien représentés et sous-entendre, comme j'aurai encore l'occasion de le souligner, que les personnes qui ont réalisé soit ces dessins, soit ces gravures ont eu accès aux objets eux-mêmes, alors dans des cabinets de curiosité ou alors dans des descriptions extrêmement précises de personnes qui avaient vu ces objets. Donc on voit par exemple là que la massue qui est tenue est une massue donc, dont les décors sont un compartiment. Hein, on voit quatre bandes. Et puis lorsqu'on voit un peu mieux le manuscrit, alors là c'est pas le cas, mais on aperçoit les entrelacs, hein, qui montrent les figures géométriques qui décorent cette massue. Donc là vous avez une autre aquarelle, hein, où effectivement on voit. Alors, je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Oui, c'est ce que. Non, c'était pas ça.
T'as trop secoué.
Mais j'ai trop secoué. Et voilà, le seul évidemment sur lequel je n'avais pas appuyé. Donc on voit la massue, hein, ici, le personnage est allongé ou assis, et on voit effectivement la massue qui apparaît ici. Et puis avec le texte d'Oviedo, hein, tiré de son Histoire générale et naturelle des Indes, où il décrit effectivement a priori plutôt ici une épée, mais c'est pas forcément très clair, hein, c'est ce que disait Stéphane avant, il y a toujours un peu cette confusion dans les textes, on sait pas très très bien si les auteurs parlent d'une épée ou d'une massue. Là Oviedo parle quand même de bord tranchant, ce qui pourrait laisser penser que c'est plutôt une épée. Et justement il y a une vraie frustration, hein, par rapport à ces premières chroniques. On a souvent des descriptions qui sont extrêmement sommaires, c'est-à-dire qu'en gros on se contente d'insister sur l'armement des Indiens des Petites Antilles, mais on insiste sur les arcs et les flèches, hein. Les Indiens des Petites Antilles sont désignés par ce surnom d'Indios Flecheros dans les documents espagnols, donc la massue semble pas être l'arme privilégiée par ces populations. Et puis pour les Grandes Antilles, qui sont, comme vous le savez, les bons sauvages, on a tendance à taire les armements qu'ils peuvent avoir, hein. Même Colomb parle de bâtons. quand il a bien identifié les massues chez ceux des petites Antilles. Alors il y a tout un imaginaire graphique, hein. Là on voit sur ce détail du planisphère du cartographe normand Pierre Desselier, qui est conservé à la British Library, donc une scène de bataille entre deux populations amérindiennes, et puis très certainement un petit effet, hein, de ce que l'archéologue américain Sturtevant appelle, de l'ethnologue pardon, américain Sturtevant appelle la toupinambisation, où on a une représentation où on retrouve un petit peu les stéréotypes des Indiens toupis, donc on retrouve la massue, même quand ces Indiens n'avaient probablement peut-être pas en tout cas des massues de ce type, c'est la massue toupie qui l'emporte, on retrouve les parures de plumes, etc., comme chez les toupies, donc on impose un peu le modèle des toupies. Puis on a des scènes un peu plus surprenantes, comme cette scène de bataille navale, où on aperçoit effectivement, alors cette fois-ci normalement, voilà, j'apprends vite, on retrouve effectivement les massues donc sur cette pirogue et puis sur celle-ci, donc des deux côtés, avec, on retrouve la rondache, un bouclier que vous a montré Stéphane, et là pour le coup on a une vraie indication géographique, puisque pirogue de la Marguerite et pirogue de la Trinité, enfin de la Trinité, donc on est dans le sud de l'archipel des Petites Antilles, la Margarita et Trinidad. Là, on a une autre représentation. On retrouve effectivement la massue. Vous voyez qu'elle est encore d'un autre type. Hein, le bout est encore un petit peu différent sur celle-ci. Donc les tableaux d'écoute, hein, qui sont extrêmement réalistes pour le coup. Et donc on a un certain nombre de descriptions. Donc le Jésus de Bouton est l'un des tout premiers, par exemple, vers 1640, à décrire les massues des Indiens Caraïbes. Donc des massues dont la taille varie en gros, si on fait une moyenne de toutes les chroniques, entre 65 et 140 cm à peu près, avec cette idée de dévasement vers la partie externe de la massue. Donc là on retrouve, je pense que c'est familier à un certain nombre d'entre vous, hein, la massue, l'une des massues du cabinet du Molinet qui est aujourd'hui toujours conservée à Sainte-Geneviève. On voit sur la gravure, ici, on retrouve la massue. Et donc, vous avez une description. Donc, on a quand même, comme ça, au XVIIe siècle, un certain nombre de descriptions relativement précises sur les dimensions de ces massues. Bon, ce qui, évidemment, je vous le dis tout de suite, ne permet pas de les identifier une fois qu'on a les massues dans les musées, même dans les inventaires. Ça n'est pas possible. On a également un certain nombre d'indications sur les matériaux utilisés, hein, ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le bois. Alors ce qui apparaît assez régulièrement, c'est ces deux bois. Là pour le coup, il serait intéressant de pouvoir faire ensuite des analyses sur les pièces qu'on possède en musée pour pouvoir un petit peu comparer. Donc voilà, il y a quand même l'idée d'une écriture topique, c'est-à-dire que d'un chroniqueur à l'autre, on reprend un peu les mêmes informations. Donc c'est pas parce qu'on trouve régulièrement ces mentions de bois que c'est forcément uniquement ces bois qui sont utilisés. Hein. Il y a quand même énormément d'emprunts entre toutes ces chroniques antillaises, donc il faut être méfiant sur l'effet de masse qu'il peut y avoir.
C'est amusant, c'est le gros simum, ça s'appelle l'amourette.
Oui. L'amourette pour faire une massue, voilà, ça, bon, écoute, c'est l'ancêtre du rouleau à pâtisserie sans doute. Alors la plupart des textes font aussi mention de figures décoratives, alors qui sont assez peu décrites, hein, il faut le dire tout de suite, au XVIIe siècle, grosso modo, il faudra attendre le début du XIXe pour avoir des vraies premières études stylistiques où on a des descriptions un petit peu des entrelacs et des décors qui sont utilisés pour les massues. Mais on a un certain nombre d'éléments sur les techniques utilisées. Alors par exemple, le dominicain Raymond Breton, qui a passé énormément de temps chez les Indiens de la Dominique, raconte qu'il a assisté à une scène comme ça, où un Indien est en train de ciseler au couteau le bois des boutous et de remplir les sillons qui ont été ainsi formés de farine extrêmement fine de manioc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les chroniques et qui, pour le coup, ici, n'est pas du tout vérifié, puisque on voit bien qu'il y a un résidu blanc, hein, qui permet de souligner les figures et qui qui a été analysé, en fait, ça s'est révélé être de la poudre de kaolin et pas du tout de la poudre de manioc. Ce qui ne veut pas dire que la farine de manioc n'est pas utilisée, mais vous voyez, il y a cette tendance à une unicité dans l'information, dans les chroniques. Et parfois, effectivement, il y a quand même pas mal de variantes ensuite, si on creuse un peu les choses. Il y a quelques auteurs aussi qui mentionnent l'utilisation de peinture rouge et de peinture noire, hein, les deux pigments étant obtenus par le roucou pour l'un et le genipa pour l'autre, et qui sont des couleurs effectivement qui sont associées à un certain nombre de rituels. Hein, les peintures chez les Caraïbes et même en Amazonie sont en général faites avec ces deux pigments. Donc voilà, mais on n'en sait pas plus, mais il y a sans doute une dimension effectivement rituelle derrière tout ça. En tout cas, ce que disent un certain nombre de chroniqueurs, c'est qu'il y a un vrai intérêt des curieux. C'est notamment ce que souligne Adrien Le Breton, un jésuite au tout début du XVIIIe siècle, mentionne effectivement cet intérêt qu'ont les Européens pour ces objets, pour ces massues, qui sont relativement recherchés, hein, de même que les calebasses qui sont gravées et qui sont, dit Le Breton, aussi recherchées, ces calebasses gravées, que les vases de Chine en porcelaine. Alors, avec sans doute une certaine exagération de la part du jésuite, mais il y a quand même un véritable intérêt qu'on retrouve effectivement ensuite dans les inventaires de cabinets de curiosité. Donc là, on voit une gravure un peu plus tardive, hein, milieu du XIXe siècle, où on voit ces motifs, hein, on retrouve ces motifs. Alors, je vous le disais, on a un certain nombre de gravures qui représentent les Indiens qui sont mis en scène. Donc vous voyez, hein, on retrouve... Les corps sont extrêmement stéréotypés. Évidemment, les Indiens ne ressemblent pas tout à fait à ça. Là, on est vraiment dans l'idée de la nudité héroïque à l'antique. Et en revanche, on a les objets, notamment les panoplies d'armes. L'Indien ne se départit jamais de ses armes. Donc là, l'Indien a plusieurs sagaies. Et puis cette massue. Ici, on retrouve la massue. Ici, a priori, c'est un arc. On voit un petit peu mieux sur l'original. On retrouve la massue, donc vous voyez une dimension moindre que les autres. L'arc, et puis l'arc, quelques flèches, et la massue. Alors notamment celle-ci est assez intéressante, hein, parce qu'on sait que le graveur Sébastien Leclerc n'a jamais mis les pieds aux Antilles. En revanche, vous voyez que la décoration sur l'extrémité de la massue est extrêmement fin. Hein. C'est relativement précis, donc pour le coup, on peut penser que Sébastien Leclerc a eu accès comme ça à un certain nombre d'objets. Il met en scène parfois les Indiens dans la chronique de Jean-Baptiste Dutertre, et on s'aperçoit que vraiment les objets sont extrêmement finement représentés. Alors parfois, les Indiens et leurs massues investissent aussi des endroits un peu plus incongrus, comme cette adoration des mages où le Balthazar africain était remplacé par un Balthazar américain, hein. On retrouve la couronne de plumes plutôt toupie pour le coup, et puis cette massue. Avec peut-être, et c'est là l'une des interprétations, l'idée que le fait que le Balthazar africain soit remplacé par un Balthazar américain annonce quelque part l'idée que les Indiens sont susceptibles effectivement de recevoir la parole des missionnaires et de se convertir. Alors effectivement, comme Stéphane vous l'a dit, hein, l'arc et la flèche, c'est véritablement l'arme du combat à distance, et la plupart des chroniqueurs font de la massue l'arme du combat rapproché, hein, dont l'efficacité est toujours soulignée, hein, une efficacité contondante qui est redoutable. Vous verrez d'autres images après où on voit effectivement qu'on représente cette efficacité en faisant jaillir cervelle et sang allègrement dans les gravures. Il y a quelques auteurs qui soulignent que la massue peut être utilisée aussi dans un contexte de chasse, notamment sur le continent, alors pour assommer des cervidés, et puis peut-être pour assommer aussi les tortues qui sont prises sur les plages. On attrape les tortues quand elles viennent terrir, quand elles viennent pondre, on les retourne et on les assomme avec un coup de massue, visiblement. Alors évidemment, en deçà de cette fonction pratique, et on va insister là-dessus après. Les massues ont aussi une fonction symbolique extrêmement forte. J'avance un petit peu sur le terrain de mes camarades, mais c'est l'arme du rituel cannibale. Et puis c'est aussi une arme extrêmement symbolique parce que, par exemple, dans la langue caraïbe, les capitaines, c'est-à-dire les chefs de guerre caraïbes, sont désignés comme notre massue. Hein, le mot, c'est Ubuntu. Et le Ubuntu, c'est la massue. Effectivement, ces chefs caraïbes, hein, même si justement le terme chef est vraiment inapproprié en l'espèce, sont effectivement, la précondition pour être capitaine, c'est justement d'être un guerrier. Donc il y a cette dimension extrêmement forte. Et à propos des Galibis, par exemple, Antoine Biette note que les capitaines ne portent aucune marque de prééminence, sauf leur massue. Donc voilà. Alors pour revenir un petit peu à la thématique de la journée et faire le lien avec ce que va dire André après, ces massues, on en trouve des traces aussi dans les archives, évidemment. Hein, soit les archives au sens strict, hein, comme l'entend l'historien. Donc là, vous avez à gauche ici un extrait de l'inventaire du cabinet Rodeau à Chantilly. Rodeau qui était l'un des intendants de la marine et qui a été un des intendants de la Nouvelle-France. Son cabinet a été transféré à un moment à Chantilly au château des princes de Condé. Et à la Révolution, le cabinet Condé qui avait intégré le cabinet Rodeau a été saisi et les archives du transfert du cabinet Rodeau ont été saisies et sont aujourd'hui conservées dans la série AJ15 des archives nationales. Et on trouve comme ça des mentions, effectivement. Donc là, on a un boutou qui est mentionné, donc des sauvages des Antilles. Et puis, parfois aussi, alors soit dans des ouvrages un peu généraux sur des curiosités, soit dans des catalogues imprimés hein, de vente. On a comme ça pour le XVIIIe siècle énormément de catalogues où il est fait mention de massue. C'est vraiment un objet qui est régulièrement mentionné dans tous ces catalogues et dans toutes les archives. Donc voilà. Et je passe donc la parole à mon camarade.
Oui, on fait donc cet exposé à trois voix et je pense que c'est juste en préambule intéressant et c'est aussi pour ça qu'on est ravis d'être là, de confronter nos disciplines parce qu'on voit bien que c'est en croisant ces recherches d'archives, ces recherches archéologiques, c'est le contexte amérindien, on y reparlera, ça sera la fin et Stéphane finira aussi pour d'autres aspects qu'on n'évoque pas en général liés à ces massues, à leur usage. Et donc, effectivement, le travail qu'on a entrepris, qui est un travail au long cours et auquel tout le monde est bienvenu pour y coopérer, c'est de rassembler les plus importantes archives. Donc, Benoît a fait ce travail, notamment sur les textes des chroniqueurs qui déjà nous racontent un petit peu ce qui se passe en termes d'usage ou les descriptions qu'on peut avoir. Et puis, il a tracé ou ont été tracés aussi un certain nombre de voyages de changements, de collectionneurs au cours du XVIIIe siècle. Et comme tu l'as évoqué, on va passer vite, hein, mais on voit bien, tu avais parlé de le marché de la curiosité caraïbe. C'est, voilà, on a des textes, même y compris, j'ai acheté par exemple, le père là-bas qui raconte qu'il a acheté deux grands arcs et un petit avec deux douzaines de flèches, etc. Et avec ça, il eut deux boutous, voilà, ben oui, pardon, il a eu deux boutous, donc les massues et trois paniers caraïbes. Cette partie me coûta quelques sols, voilà, et un peu d'eau de vie, et quelques pots d'eau de vie. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et donc, puisqu'on va petit à petit arriver au musée, ou avec la cristallisation qu'on a évoquée ce matin de ce qui se passe au moment de la Révolution française, mais on va comme ça essayer petit à petit de tracer un petit peu toutes les informations qu'on peut avoir sur ces mouvements d'objets postérieurement à leur entrée en Europe et en France en particulier pour le cas présent et lors au travers de ces échanges. Alors, des fois, on a des fausses joies et par exemple, on avait localisé qu'en 1695 était signalé par Michel Bégonde et son cabinet donc à Rochefort qui l'envoie d'une pirogue des sauvages de la Dominique. Et donc, hélas, j'étais un petit peu déçu. Je me suis rendu au Musée national de la marine de Rochefort, dans le vieux cabinet. Et la pirogue qui est conservée là n'a absolument rien de Caraïbe. Donc, on a été assez déçu. D'ailleurs, c'est assez improbable, cet objet. Je ne sais pas. On ne sait pas d'où ça sort. Mais c'est très bizarre. C'est peut-être une curiosité qui a été fabriquée spécialement parce qu'on ne voit pas bien ce truc-là. En tout cas, flotter quelque part dans l'océan Atlantique, ça me paraît assez improbable. C'est dans un bois très léger. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'il y a eu une pirogue à un moment donné qui s'est promenée par là. Et tout ça nous amène évidemment sur des choses connues, je pense, de vous tous, hein, qui sont aussi ces différents cabinets ou collections qui se développent depuis évidemment le cabinet des singularités du roi au Louvre avec André Thevet. on va pas trop en parler, mais il y avait tout à l'heure en aparté, on parlait du fameux casse-tête qu'aurait d'André Tevé, des Toupinambas. Bon, on n'aura jamais la preuve que c'est un casse-tête ramené et qui appartenait à Tevé, mais le fait est qu'on en a. Et de la même façon, on a ce qui va se passer au Jardin du Roi, avec l'ancêtre donc du Muséum national d'histoire naturelle, donc où un certain nombre d'objets atterrissent par divers biais. Ça, c'est Stéphane qui a ramené ça, je ne me rappelle même plus d'où ça vient. Mon cher Stéphane, c'est une représentation une sorte de cabinet américain hollandais, sauf erreur de ma part, voilà, et où on voit effectivement un certain nombre de choses très intéressantes, mais sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, mais avec des différentes reconstitutions, tableaux, massues, etc. Mais
ce matin, on a vu une pièce un peu avec les guerriers, la galerie de portraits des guerriers. Et ce tableau, il est aussi entouré d'une galerie de petits portraits de paysages. Donc il y a la scène principale qui va situer le thème, c'est-à-dire avec l'Amazone cannibale à droite et le guerrier à massue à gauche. Et donc les Indiens qui rentrent dans le monde. Et c'est entouré de toute une galerie de paysages américains. Et c'est un peu le même principe du guerrier principal entouré de d'autres chefs guerriers reconnus qu'on a vu ce matin.
Donc il a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Donc il y a tous ces cabinets ou autres d'abbayes, d'apothicaires, d'érudits, etc. Et en particulier à Paris, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du cabinet qui aujourd'hui se trouve à Sainte-Geneviève, l'ancien cabinet du Moulinet, qui a cette particularité d'avoir cette fameuse gravure et avec les objets qui sont conservés, au moins pour partie, aujourd'hui donc à Sainte-Geneviève, et sur lequel il y a beaucoup à dire, et on va commencer un certain nombre de travaux. Tout ça aboutit en fait donc aux saisies révolutionnaires et à partir de ce moment-là, on va tracer un petit peu plus nos objets. Et donc là, on a entrepris avec Benoît maintenant depuis plusieurs années un travail, si vous voulez, qui est classique pour les conservateurs de musées. C'est à partir des collections dont on dispose aujourd'hui, héritées de toutes ces histoires, d'essayer de remonter l'histoire, justement. Aujourd'hui, la plupart des collections nationales provenant des aires amazoniennes ou caribéennes se trouvent au musée du Quai Branly. Avant, elles étaient au musée de l'Homme. Avant, elles étaient au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et on va comme ça essayer de remonter le temps. Et évidemment, il faut parler, mais ça a été évoqué ce matin, du Muséum des Antiques, hein, qui a été ce muséum éphémère, qui a été créé donc au moment de la Révolution française par décret le 2 juin 1795, donc dans les locaux du cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale, et où, dans un esprit, je trouve, très intéressant, où on mariait l'antique et l'exotique. C'était, je trouve, un essai particulièrement intéressant qui malheureusement a fait long feu et qui n'a pas perduré, puisque très vite ce cabinet a été abandonné n'a pas vraiment décollé, si je puis dire. Les objets exotiques sont restés pour une partie, pour un temps, dans les greniers de la Bibliothèque nationale. Certains ont pu intégrer et rejoindre le musée de marine du Louvre, hein, qui s'était créé à partir donc d'abord le musée de marine, d'abord baptisé musée Dauphin, donc qui est inauguré en 1829, et duquel va se détacher petit à petit un musée d'ethnographie, puisqu'on va collecter les objets des mers du Sud, notamment, et on va y récupérer certains de ces objets. Et voilà, peut-être pour pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas le propos aujourd'hui, c'est un tableau qui se veut le plus synthétique possible, qui montre un petit peu les chemins de ces collections à partir du Muséum des Antiques. On a aussi, je n'ai pas parlé, mais c'est une collection très importante, c'est les collections du marquis de Fayolle, qui se trouve donc à Versailles, et qui va, au moment de la Révolution française, intégrer la bibliothèque municipale de Versailles, et puis des choses qui sont donc au Muséum national d'histoire naturelle. Donc en fait, un certain nombre d'objets vont transiter par le musée de marine et le musée d'ethnographique. Là, ça ne concerne pas nos collections, mais il y a un musée américain du Louvre à un moment donné, mais c'est pour le précolombien. Et puis, certaines choses vont être envoyées au musée des Antiquités nationales parce que au moment où on chasse les sauvageries ou les objets barbares du Louvre, hein, parce que dans le temple du Beau, c'est intéressant aussi de voir comment l'histoire se bégaye sur la présence ou l'absence au Louvre des objets des sauvages ou exotiques, puisqu'ils sont retournés avec le pavillon des sessions du musée du Quai Branly. Donc à la fin du 19e et au tout début du 20e, le musée d'ethnographie n'ayant pas de place et pas de moyens, les objets vont être envoyés à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale, dans une salle d'archéologie comparée. On va comparer le lointain dans le passé avec le lointain dans le temps. C'est un grand classique. Et puis, on en discutait avec les collègues, avec Olivier, au musée de l'artillerie. Va se créer cette galerie d'ethnographie où vont être entreposées... On va récupérer un certain nombre de pièces anciennes qui, à différentes époques, vont venir aussi du Muséum des Antiques ou d'autres objets trafiqués. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Créer complètement, voilà. Donc, je rentre pas dans le détail de cette histoire, mais puisque, en fait, à partir de tout ce travail un petit peu sur l'historiographie des collections, d'une part, et d'autre part, dans mes fonctions antérieures comme responsable des collections des Amériques au musée du Quai Branly, on avait fait un travail avec les collègues de recensement de toutes les collections de type amazonien, au sens large. On aboutit aujourd'hui, toutes catégories confondues, à environ 12 000 objets, 12 000 pièces dans les collections du musée aujourd'hui du Quai Branly, venant du musée de l'Homme, définies, on va dire pour faire simple, de style amazonien. Ça, on peut à peu près les caractériser, même si on peut discuter à l'infini. Et en croisant ces typologies d'objets, on a essayé d'isoler les pièces pour lesquelles on avait la certitude, ou en tout cas des évidences, de pièces qui pourraient être antérieures à la Révolution française. C'était un peu le point de départ. Et pour ce qui concerne l'ère amazonienne et caribéenne, on a isolé 404 objets qui répondaient à ces critères. En fait, sur les 404, on va dire qu'il y a 230 pièces sur lesquelles on est à peu près sûr à 100% qu'elles sont antérieures à la Révolution française. Dans un certain nombre de cas, on sait même leur origine, cabinet du roi, jardin du roi, cabinet de tel ou tel aristocrate. Et on a 174 autres pièces sur lesquelles la preuve n'est pas faite, mais très vraisemblablement, elles sont antérieures à la Révolution française. Alors, on a tout type d'objets, hein, évidemment. Vous avez ici quelques exemples, vannerie, parure de plumes, collier de dents, calebasse, etc. Et puis, bien évidemment, on a toute une série d'armes, parce que sur ces 404 pièces, en fait, 134 pièces entrent dans la catégorie des armes. Alors, les flèches dominent largement, on en a 80. On a des arcs, 18, et des carquois, 4. Une seule sarbacane, mais enfin on a pu voir que ce n'était pas une arme au proprement parler, et les massues, casse-tête ou épées constituent donc le point fort, ce qui ne nous étonne pas, puisqu'on en a 23 dans les collections qui présentent diverses typologies et sur lesquelles on commence à travailler plus avant. Donc vous avez ici un petit peu rapidement rassemblé, c'est à peu près à l'échelle, hein, pour vous donner les tailles, depuis des massues qui sont des massues, Stéphane en parlera après, tout à fait symboliques, de quoi 50 cm de haut. Ce n'est pas avec ça qu'on va très loin au combat. Et jusqu'à ces fameux casse-têtes ou massues qu'on peut voir à l'extrême droite. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et ça, c'est... C'est notre ami Stéphane qui a mis... Voilà, je cafarde sur qui est sur qui. Voilà, si c'est un capitaine, il l'aura bien grosse et bien grande. Si c'est un vieillard, elle sera moindre et ainsi en descendant. Ça, c'est le père Breton qui raconte ça. Donc voilà. Et donc, en fait, évidemment, comme Benoît l'a évoqué tout à l'heure, on a commencé à s'intéresser à la typologie des objets, puisque une fois qu'on a défini toutes ces massues, Alors bien sûr, il y en a d'autres dans d'autres musées, d'autres régions que la France. Ça, c'est un travail à plus long terme. Voilà, on a commencé à essayer de confronter un certain nombre de dessins, et ça rejoint ce que disait Benoît tout à l'heure. Dans un certain nombre de cas, on a quand même des dessins qui paraissent très très fidèles avec la typologie des pièces qu'on a aujourd'hui de conserver. Et ça va être la dernière partie dont parlera notamment Stéphane, ces fameux décors qu'on retrouve sur un certain nombre de massues, en particulier celle-ci. Donc voilà, c'est une comparaison de dessins ou d'aquarelles qu'a mentionné Benoît avec des pièces aujourd'hui donc au musée du Quai Branly. Voilà une de ces pièces. Et puis donc voilà avec des dessins. Et avant que je passe la parole à Stéphane, évidemment, pour nous se pose aujourd'hui une question de l'origine, entre autres, de ces pièces, ainsi que de l'âge. Et ça, c'est les deux champs de travail à mener pour le temps, parce que de dire qu'elles sont d'ancien régime, c'est une chose, mais on aimerait en savoir un peu plus sur la datation, et surtout sur leur origine géographique, puisqu'aussi bien, la plupart du temps, on a qualifié ces massues de massues guyanaises. Et en fait, il faut bien voir que ce sont des attributions qui, pour l'essentiel, se sont forgées à la fin du XIXe siècle par nos prédécesseurs, hein, en particulier Ernest Amy au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui a comparé avec ce qu'il connaissait à cette époque-là, avec des massues qui venaient de Guyane française. Donc, mais le plus souvent, on a complètement extrapolé. En fait, on n'a pas d'idée d'où elles viennent. Et les recherches historiques montrent qu'on a aussi des massues et des boutous dans les îles, et qu'il faut entendre la notion de Guyane dans un sens très large. C'est une grande large partie du littoral guyanais. Et donc, juste, il se trouve qu'il y a un premier auteur dès 1930, Dietschy, qui, à propos de cette massue, émettait l'hypothèse qu'elle venait des Antilles françaises. Et c'est, à notre connaissance, le premier qui a commencé à se questionner sur les origines. À Stéphane, pour la fin. Voilà une typologie un petit peu de ces dessins, mais après tout, c'était la transition vers toi, sauf erreur.
Oui, vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'ils sont tous un peu similaires. Et il y a une raison derrière tout ça. Même si les formes sont très variées, les formes de massues d'une région à l'autre, ou même dans la même, dans une seule région, on va s'apercevoir que les dessins sont souvent reprennent un peu les mêmes structures. Mais avant d'aborder l'iconographie, je voudrais faire un détour parce que vous attendez tous finalement les anthropophages, quand même le côté savoureux de cette histoire, puisque une partie des pièces qu'on a dans les musées sont d'origine, alors pas vraiment amazonienne, mais du littoral du Brésil, puisque avant d'arriver au cœur du Brésil, il fallait traverser une rangée de dents, Tupinamba ou Tupiniquin, de tous les peuples Tupi qui étaient cannibales. Alors, il y en avait aussi en Amazonie, mais beaucoup moins finalement. C'était vraiment sur la côte qu'ils étaient le plus virulents ou les plus gourmands. En tout cas, on a beaucoup de témoignages de ce cannibalisme. On en a un qui est extraordinaire, qui est celui de Hans Staden, qui s'est retrouvé prisonnier en 1556 chez des cannibales qui lui disaient tous les jours on va te bouffer demain, et il voyait des gens se faire manger, donc c'était peu rassurant. Au bout de 9 mois, il s'est dit je vais peut-être quand même essayer de me partir, et il a pu s'échapper et écrire un best-seller, hein, le Da Vinci Code de l'époque un peu, qui a été un best-seller parce qu'il avait trouvé évidemment le truc pour vendre, qui était des gens nus et du sang, quoi. Ça, c'est la traduction française récente, à vrai dire. C'est beaucoup plus long, le titre allemand est moins poétique. Et puis surtout, il a émis des images, quoi. Alors là, les images avec des femmes nues et des hommes en train de manger d'autres, ça choquait énormément. Et ça a très bien marché, ce livre. Bah, toujours est-il que c'est vrai que les premiers contacts avec le continent sud-américain étaient faits avec des peuples cannibales qui faisaient de l'exocannibalisme, parce que dans l'intérieur des terres, on va trouver beaucoup d'endocannibalisme. On va manger la grand-mère en rite funéraire, on va garder les restes des guerriers ou des membres de la famille qui sont morts, alors que sur le littoral, on va plutôt manger son ennemi pour acquérir sa force et ses qualités. Et ça va depuis la Guyane. Ici, c'est Moqué Barrère en Guyane, qui en 1614 montre donc des pratiques cannibales, probablement chez les Caraïbes, et puis les plus connus le long du Brésil. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les premiers explorateurs ont pu collecter la fameuse arme utilisée pour ouvrir le plat de résistance. C'est souvent donc un bâton avec une boule au bout et une pelote de coton à la base. Alors l'idée, c'est qu'on attache la victime qui est maintenue de deux côtés par une corde et il doit éviter les coups de massue. Et puis à un moment, il ne les évite plus, quoi. Et il finit donc dévoré. Alors, il faut savoir que le prisonnier est honoré, il est intégré. On ne va pas manger comme ça son voisin, ça ne se fait pas. On va d'abord l'intégrer, le socialiser dans la tribu elle-même. Il faut qu'il fasse partie de la tribu, donc un pas vers l'endocannibalisme. On ne va pas manger un étranger, ça n'aurait pas de sens. Donc il va même parfois se marier. Et il est énormément bien traité pendant sa captivité. Il n'a pas intérêt à s'échapper, puisque de toute façon, s'il retourne chez lui, il se fera massacrer de la même façon. Et l'autre, son ennemi, va être aussi très bien traité. Il aura sa propre maison, c'est la massue elle-même, qui, vous le voyez, est dans une maison spécialement réservée à cette massue, qui est régulièrement repeinte, restaurée et honorée comme étant l'ennemi de celui qui sera mangé. Et évidemment, arrive le jour fatidique où il sera dévoré. Et on a des belles pièces, notamment Branly, il y a une très belle massue. Il y en a que dans pratiquement tous les pays d'Europe. Mais la plus étonnante, c'est peut-être celle de la bibliothèque Sainte-Geneviève, puisqu'elle est très différente dans les formes des autres. Et elle a cette espèce de personnage qui tient deux têtes trophées dans les mains, alors que ce n'est pas du tout un rite de collecte de trophées. Le cannibalisme est complètement différent. Donc cette massue est assez étonnante, et pourtant elle fait partie quasiment des premières pièces rentrées en France. Elle est intéressante, on aurait du mal à douter de son authenticité, puisque comme vous voyez ici, le prisonnier est attaché. On va le décortiquer avec la massue, et vous voyez qu'il a les mêmes peintures sur le crâne que celles qu'il y a sur la massue, un peu comme sur la pièce de Sainte-Geneviève. Il y a une association donc entre les deux ennemis qui vont se rencontrer, certes violemment, mais qui vont avoir un véritable échange d'identité grâce à ces peintures. Je ne vais pas m'étendre plus sur le cannibalisme, on pourrait faire plusieurs confs là-dessus. Je voudrais, juste pour respecter un peu le timing, finir avec un peu d'iconographie, puisque c'est finalement ce qui a été le moins exploré dans l'étude des massues. Et là, je vais beaucoup me référer au travail d'un ami hélas disparu, Dimitri Karadimas, qui, juste avant de mourir, il y a 2 ans, avait commencé à explorer, qui était anthropologue pour le coup, et avait commencé à explorer à la façon lévi-straussienne les décors des massues guyanaises. En gros, on a 2 types de décors, un décor très géométrique et un autre qui est plutôt figuratif, voire naïf. Alors, on pourrait imaginer une différenciation géographique, mais ça ne semble pas être le cas, mais plutôt chronologique. Peut-être que ces massues sont plus récentes que les autres. En tout cas, à la base, c'est quand même à peu près la même idée de motif. Vous pouvez voir, c'est toujours des triangles et des ronds disposés en losange. C'est le maître mot de ce décor. Après, il y a évidemment plein de variantes, mais la base, ce sont toujours ces ronds et ces triangles. Et quand on connaît l'importance de l'astronomie dans les populations forestières, il faut voir ce que c'est un ciel de nuit en Amazonie, c'est juste magnifique. Alors là-bas, ils n'ont pas l'étoile du berger et pas la croix du sud, ils ont Orion. Orion, qui sont donc 4 étoiles en trapèze, qui ont la particularité d'être juste au-dessus de la ligne équatoriale, de se lever sur la ligne équatoriale et se coucher sur la ligne équatoriale. Et alors je ne vais pas revenir, il y a un mythe derrière assez long à raconter, le mythe des 4 singes, qui sont des mythes fondateurs de beaucoup de sociétés amazoniennes, et même même plus qu'amazonienne, puisqu'andine parfois. En tout cas, on va retrouver une représentation de cette disposition par quatre étoiles dans beaucoup de motifs, de beaucoup de ces motifs de massue. Et ici aussi, vous pouvez voir que les pointes forment quatre étoiles. Et vu le temps, je ne peux vraiment pas vous détailler, mais je vous demande de me croire sur parole. Dans le mythe d'Orion, donc qui sont quatre singes qui sont montés dans le ciel, il y a la mère qui est un placenta, et ce même placenta qui est aussi une raie d'eau douce. Il y a beaucoup d'analogies de formes dans les sociétés animistes. On peut se transformer assez facilement. Les singes deviennent à un moment, on leur coupe la tête, ça devient des mygales, puis après ça devient des étoiles. Enfin, c'est pour ça que je ne peux pas vous raconter le mythe qui est très long. Mais donc, la raie a un rôle essentiel comparé au placenta à la naissance. Et comme par hasard, on va cet animal qui m'a vraiment intrigué pendant longtemps aurait été une capsule d'œuf de raie avec ses pseudopathes qui est représentée et qu'on va retrouver avec les pattes enroulées, avec toujours cette espèce de losange et de points. Et ces points qui, est une stylisation plus poussée de la capsule de raie, et qu'on va retrouver sur certaines poteries guyanaises, c'est toujours cet animal très étrange, mais qui rappelle énormément donc ces capsules de raie, et qui surtout a les quatre pointes qui représentent la disposition en trapèze d'Orion. Orion qui est essentiel vraiment dans la mythologie amérindienne. On va donc retrouver ces quatre étoiles et puis le baudrier au milieu, mais là je ne peux pas. Qui seront donc les capsules de raie et aussi les singes qui sont montés au ciel. Et on peut décliner l'ensemble des motifs géométriques, mais aussi figuratifs, comme une représentation des quatre singes transformés, des frères singes transformés en étoiles après être montés au ciel. Ici, vous voyez, c'est les quatre singes avec le baudrier, les trois étoiles du baudrier, représentées sur un bijou karchi d'une autre culture. Je n'ai pas parlé, il y a aussi des fruits du palmier qui sont importants dans ce mythe, mais je ne peux pas vous le raconter. Et puis, je voulais finir avec la massue, c'est bien joli, mais il faut voir, c'est quand même très efficace. Et ici, vous avez une jeune fille, Yanomami, au Venezuela, qui est en train de caresser le crâne de son grand-père, qui s'est pris un bon coup de massue. Et je me disais que c'était bien terminé avec la fin, c'est-à-dire la marque de la massue. Merci.
C'est une toute petite question technique par rapport aux Aztèques. Ils n'avaient jamais, de lame sur les tronches. Comme les,
oui, parce qu'il
n'y a pas d'obsidienne.
Il n'y a pas d'obsidienne, mais ils auraient très bien pu faire de même. D'ailleurs, toutes les épées, ce sont des épées, puisqu'on rajoutait un bout tranchant avec l'obsidienne, toutes les épées et massues aztèques n'étaient pas forcément fournies de ces obsidiennes. C'est une fois de plus quelque chose qui a bien marqué le conquistador, cette arme aztèque. Mais là, il n'y a pas d'obsidienne, sauf au pied des Andes, et encore en très petite quantité. L'Amazonie occidentale, donc la haute Amazonie, juste au pied des Andes, j'ai fouillé pas mal par là-bas, j'ai trouvé quelques éclats d'obsidienne, mais pas de quoi faire une épée, en tout cas.
Et la deuxième question, c'était les dessins, pour prolonger, sont des dessins identifiants ou nommants, comme les dessins de peau des Indiens ou...
Les dessins, pardon.
Identifiants, c'est-à-dire qu'ils sont, liés au propriétaire, et ils veulent dire quelque chose sur son nom
Non, sûrement pas, et c'est peut-être aller loin...
Au Kadouveo ou ces gens-là.
C'est peut-être aller loin dans l'écriture amérindienne où ce sont des mythes qui sont représentés. Moi, j'ai toujours pensé que l'art amazonien était plus évolué que l'art andin, qui n'est que figuratif finalement. L'art amazonien a été plus loin parce qu'il est allé très loin dans la dans le symbolique et évidemment on va retrouver des symboles comme ici hein. Alors c'est presque réaliste hein, les symboles des quatre étoiles, parfois on voit aussi les trois au milieu, les trois du baudrier, mais c'est évidemment pas nominatif, c'est plutôt un appel, comme les peintures rupestres en Amazonie, un appel à certains mythes quoi. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va retrouver dans l'essentiel des massues, quand il y a des motifs, certaines n'ont pas de motifs, ce principe de quatre ronds formant des losanges, ou alors il y a quatre personnages, parfois deux sur une face, deux sur l'autre, donc ça peut être les quatre singes, ou alors des allusions au mythe de la gémellité. Mais vous voyez que ce que l'art, peut-être du contact, donc l'art le plus flamboyant, sera pas réaliste, et peut-être que l'art le plus récent revient vers du réalisme, parce que ça devient aussi, il faut quand même le préciser, un art commercial, puisque comme partout, tous les, comme on l'a dit ce matin, les conquistadors sont très intéressés par ces armes-là et en demandent beaucoup. Donc je pense qu'au même titre que dans le Pacifique, comme on le disait, en Amazonie, dans la Caraïbe, on a produit des armes pour les touristes, au même titre que les céramistes ont fait des objets, ont très vite fait des chandeliers en céramique ou des cendriers ou des tasses en céramique qui n'ont évidemment rien à voir avec ce qu'on trouve, mais qui étaient des copies pour plaire aux acheteurs. Quoi. Et ça dès le 17e et couramment au 18e.
Par rapport à ce que tu dis, effectivement, sur les dessins, on voit la même chose en Amérique du Nord, où par exemple les peaux peintes les plus anciennes sont complètement géométriques, alors que les peaux peintes avec du figuratif vont apparaître essentiellement au 19e siècle et certaines vont être produites pour être vendues. Et donc effectivement c'est assez marrant de voir nous, mais ça fait partie des chantiers à mener, parce que vous voyez bien que c'est pas à vous que je vais expliquer, c'est un chantier pas facile, parce que pour ces périodes anciennes on a la documentation est quand même très limitée, les descriptions aussi très limitées, c'est qu'on arrive à mieux dater toutes ces massues. Donc là, on voudrait faire un programme de datation en carbone 14 avec les limites qu'il faut prendre au C14 pour des périodes quand vous savez ou vous ne savez pas. Je veux dire, quand on approche trop près de nous, le C14, les marges d'erreur sont plus opérationnelles. Quoi. Dater au C14 quelque chose du 18e siècle, ça n'a pas grand sens. La massue Tupinamba, ainsi qu'une cape Tupinamba, j'ai fait faire une rafale de date. Tout colle, on est dans le 16e siècle. Bon. Avec une fourchette assez large, ça nous donne pas. Ça serait une hérésie de dire que c'est de 1550 ou de 1560. En tout cas, ça colle. Et je ne sais plus ce que je voulais. Oui, et donc c'est de voir, essayer de dater mieux ces massues et de déterminer les bois qui peuvent nous renseigner, mais c'est pas toujours si simple d'avoir des référentiels. Et d'autre part, d'essayer de voir la provenance géographique, et j'aimerais qu'on teste ce qui maintenant marche bien en archéologie dans certains domaines. On a des fouilles archéologiques qui le montrent bien, avec de l'analyse des isotopes du strontium, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, une plante qui pousse quelque part, elle va fixer un certain nombre d'éléments de strontium qui sont dans le sol géologique où elle se trouve, et ces marqueurs de strontium ne sont pas les mêmes selon la géologie des régions. Donc on l'a fait sur les humains, on a fait des fouilles, où on commence à voir un tas de choses. Je pense que, à la vitesse où ça va, je pense que ça va être hyper intéressant dans le futur. Et le constat de base, notamment pour déterminer peut-être entre des massues antillaises et des massues guyanaises, c'est que le substrat géologique guyanais est complètement différent du substrat géologique des Antilles, qui est volcanique ou calcaire. Et bon, mais voilà, ça il faut qu'on commence. C'est pas, pour le moment, les seules analyses de strontium ont été faites par une collègue anglaise sur des massues anglaises. Bon, elles ont l'air de venir du continent. Mais voilà, il faut, c'est à l'avenir qu'on le saura, on le saura mieux.
Moi, j'avais une question sur le cabinet Rodo. Est-ce qu'il y a une publication? Est-ce qu'il a fait une publication imprimée?
Non, il n'y a pas de publication imprimée du catalogue. Pour l'instant, c'est. Je ne dis pas que c'est une exclusivité, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir vu, mais.
C'est un manuscrit.
Voilà, c'est un manuscrit et c'est lié aux archives révolutionnaires. En fait, la grande chance, c'est que le cabinet de Condé a été saisi et les archives du cabinet de Condé ont été saisies. Et visiblement, celui ou ceux qui ont inventorié. les objets du cabinet, qui étaient en général des naturalistes. Hein. D'ailleurs, il y a énormément de naturalistes du futur muséum qui ont été mobilisés pour les saisies révolutionnaires, ont vu tout l'intérêt de conserver cette documentation. Et donc, ont conservé le manuscrit, effectivement. Donc, c'est un manuscrit quand même d'une cinquantaine de folios à peu près. On voit un peu la répartition. Donc, c'est aussi intéressant pour des questions de transport, par exemple, hein, comment s'organise le transfert d'un cabinet de curiosité. Donc voilà, mais on planche
et
là-dessus.
Et puis, peut-être tu le sais, mais sinon on vous enverra la publication qu'on vient de sortir il n'y a pas longtemps. Par un coup de bol incroyable, on a trouvé des pièces du cabinet de Rodot, de Louisiane, une pipe Natchez, qui dormait tranquillement au musée du Quai Branly, qui a été offerte par un collectionneur en 1950, donc Charles Raton en l'occurrence, mais sans savoir d'où elle venait. Les collègues du musée de l'Homme à l'époque l'avaient identifiée comme une pièce louisianaise. Et par un hasard, mais alors totalement improbable, j'ai retrouvé dans des dessins à l'an, qui étaient mentionnés comme antiquité de Saint-Domingue, trois dessins du cabinet de Rodot, une céramique Taino et deux pièces Natchez.
D'accord. Et vous allez publier le catalogue Rodot, là, alors ?
Ben, je ne sais pas.
Je pense, oui, qu'on va sans doute publier, c'est intéressant pour ça. Et effectivement, cette découverte souligne tout l'intérêt de la démarche qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de non seulement effectivement d'avoir cette démarche très muséale, très conservateur, de partir à rebours, c'est-à-dire en partant des collections et en remontant, mais en même temps avoir une démarche plus historienne et en partant des sources les plus anciennes et en essayant de faire le chemin inverse. Donc c'est un peu un travail de tunnelier, hein, finalement, et avec l'idée de pouvoir faire converger les deux pistes au bout d'un certain moment. Et là, c'est quand même la première fois où ça marche aussi bien, mais c'est, pour le coup, c'est très encourageant. Ouais.
Et j'avais une autre question, c'était pour savoir, à votre avis, à quel moment apparaît le terme casse-tête ? Parce que moi, je ne le trouve pas dans les textes du XVIe. Parce qu'on dit massue beaucoup, on dit épée, massue, mais casse-tête, je ne le trouve jamais, et pourtant, on n'arrête pas de le dire, nous. Mais ouais, à partir de quand ?
On dit boutou et main canard aussi.
Pour les textes anciens du XVIIe, on n'a pas du tout de mention. En tout cas, pour les textes antillais, en général, le terme, c'est massue ou boutou. Il me semble que dans certains catalogues de vente du XVIIIe, on trouve déjà le terme de casse-tête. Mais on est déjà mi-XVIIIe. Je me demande si dans un catalogue comme celui de Davila, par exemple, on ne trouve pas la mention de casse-tête déjà. Mais on est déjà aux alentours de 1750-1760.
Merci.
Oui, dans les objets que vous avez attestés comme étant antérieurs à la Révolution, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas tant d'armes que ça. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des textes qui témoigneraient du fait que ces armes sont collectionnées dans les cabinets, européens bien sûr, en tant que telles ? Ce que je veux dire, c'est dans les textes que j'ai cités ce matin, ou que j'ai en tête, des armes turques, par exemple, elles peuvent servir. Éventuellement. Est-ce qu'il y a la moindre trace du fait qu'un casse-tête soit pensé comme une arme potentiellement utilisable ? Ou est-ce que c'est vraiment exotique 100%, si je puis dire, au sens où on l'admire, on l'observe comme quelque chose venu d'ailleurs, mais pas comme une arme en réalité ? Tu vois l'objet de la question ? Enfin, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est perçu comme une arme au même titre qu'une arme turque, par exemple ? Voilà. Est-ce que vous avez une intuition là-dessus, une impression ? Enfin, je sais que c'est difficile comme question, mais...
Alors, moi, j'ai juste un seul exemple, effectivement, auquel j'ai pensé ce matin en vous écoutant. C'est justement, qui n'est pas un cabinet, c'est-à-dire que Longvilliers de Poincy, qui est le lieutenant général des îles au tout début de la colonisation des Antilles, a un château à Basse-Terre à Saint-Christophe et a ce qu'il appelle un arsenal où effectivement il y a tout l'armement pour sa maison au sens hein, où on l'entend au XVIIe, donc pour armer ses gens. Et lorsque Poincy meurt, il se trouve qu'il est chevalier de l'ordre de Malte et donc l'ordre de Malte va récupérer l'intégralité des biens selon l'habitude de l'ordre. Et donc il y a un inventaire qui est dressé comme ça de l'intégralité du château presque à la petite cuillère près. Hein. Et on retrouve en fait dans l'arsenal, il y a au moins deux massues amérindiennes qui sont conservées à l'arsenal au milieu d'épées et de lances. Donc là, ça sous-entendrait effectivement qu'ils conservent ça comme vraiment comme une arme. et pas seulement comme une curiosité, de même qu'il a une pirogue amérindienne qui est dans le même endroit où il y a les deux barques qu'il entretient.
Oui, mais là, on n'est pas sur le continent, si on est où?
On n'est pas sur le continent, non.
Donc,
on est aux Antilles.
De lieux intermédiaires où
voilà.
Il y a peut-être une acculturation, si je puis dire. C'est plus naturel dans ce lieu-là que ça soit perçu comme une arme, parce que...
Après, moi, je n'ai pas de réponse, c'est juste intuitivement, c'est que ces massues ne sont jamais que des massues de bois. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas, en tant qu'arme, on n'est pas face comme à des turqueries, là, ou des choses comme ça. Voilà, ah,
ma question est peut-être idiote, hein, je l'assume.
Non, mais je dis ça juste comme ça, j'ai aucun élément probant pour le dire, c'est que, même si on les appelle épées, même si c'est casse-tête, parce que c'est des bois denses, et effectivement... je pense que les grandes massues, comme disait Stéphane, quand on prend ça sur la tête, je pense que ça fait très mal. Mais voilà. Par contre, tu n'as pas dit peut-être sur certaines les petites massues.
Ah oui, mais alors les petites massues, parce qu'il y en a des toutes petites comme ça. Hein. Je pense que là, on retombe sur le même principe que les haches ancres en demi-lune, qui sont des symboles de possession, on va dire, qu'on va déposer sur une victime. Et puis, alors ces massues, certaines sont peut-être probablement aussi assez récentes. Et là, on tombe dans le souvenir gadget, comme ça a fleuri un peu partout. Et certaines n'ont en effet aucune fonction. Il y a quelques rares massues qui n'ont aucune fonction guerrière, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, sur l'histoire des armes de panoplie, on peut voir sur le cabinet qui est illustré là, où là, c'est quand même une panoplie guerrière qui est montrée. Hein, avec des mélanges d'armes de différents endroits.
Oui, mais alors, justement, pour Sainte-Geneviève, vous savez très bien que le roi, il fait son tour, il se sert, etc. Il ne me semble pas qu'il s'intéresse beaucoup à ces questions-là.
Alors, le problème, par exemple, pour les armes, excusez-moi, c'est que on doit des arcs et des flèches. Hein, il y en a une foultitude dans les musées. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde qui s'est attaqué à ça parce que, franchement, la typologie des arcs et des flèches, c'est assez limité. On regardait avec Stéphane, là, il y a quelques jours, des pièces qui sont à Florence, hein, qui étaient dans le cabinet des Médicis. Il y a un très beau casse-tête dit guyanais. Il y en a un autre, enfin, le long, là, avec le décor géométrique. Il y en a un autre sur lequel on discute de savoir, parce que lui, c'est un peu un ovni, quoi. Mais des collègues m'ont dit qu'il est sans doute océanien, mais on ne voit pas bien qu'est-ce que ça ferait dans la collection des Médicis, un objet océanien. Alors, ce serait un scoop. Et à côté de ça, il y a quatre arcs, il y a des flèches. Bon.
Sans compter que les arcs et flèches sont essentiellement, c'est comme les sarbacanes, hein, ça reste essentiellement des armes de chasse. Les armes de guerre, j'ai quand même épluché pas mal de collections dans les musées. Je crois que j'ai vu qu'une seule fois en France des vraies flèches de guerre avec des grosses pointes. Alors que les autres, toutes les pointes pour les oiseaux, pour les poissons, pour tout ce que vous voulez, mais des vrais arcs et flèches, surtout de guerre, je n'en ai pas vu beaucoup.
Il ne faut pas oublier que les cabinets de curiosité, puis les collections, hein, c'est à une époque où l'art militaire, si je puis dire, est en train de délaisser l'arc pour d'autres armes. Et c'est aussi l'enjeu de la question. Si les armes, entre guillemets, exotiques sont perçues comme... relevant de pratiques bien antérieures, à ce moment-là, l'intuition que j'essaierais hypothétiquement de poser, c'est est-ce que ces armes ne sont pas juste perçues comme des objets exotiques, mais au fond pas comme des armes? On sait bien que ça peut servir d'arme ou pour la chasse, mais il viendrait à l'esprit de personne de s'en saisir pour l'utiliser.
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pour ça que je dis que les armes amazoniennes ont probablement peu surpris par rapport aux outils. Hein, quand on voit tout l'outillage amérindien pour enlever le cyanure des plantes, pour conserver au sec des plumes, enfin, qui est vraiment en vannerie notamment, mais aussi en bois ou en calebasse, tout cet appareillage très élaboré. À côté de ça, pour un type qui sortait un conquistador qui sortait du Moyen-Âge, ça reste des armes très archaïques. La massue, c'était la masse d'armes utilisée au Moyen-Âge, les flèches aussi, les lances, l'épée en bois, et tout ça, pas en métal en plus, en plus fruste. Donc je pense qu'ils voyaient ça comme des antiquités sans aucun intérêt.
Oui.
Et donc des gens qui ne savaient pas faire la guerre.
Là, je vais au bout de ma logique. Si c'est perçu comme des objets exotiques, du fait de ce qu'on raconte les uns les autres, à ce moment-là, c'est une arme par origine, mais au fond, c'est plus perçu comme une arme potentielle.
Et peut-être les seuls qui ont vraiment frappé, et on en a quoi, une bonne douzaine de conservés en Europe, c'est les massues Tupinamba. Mais parce que ça les a frappés aussi, parce que ça a participé du rite cannibale. Oui, voilà. Et là, effectivement, ça, on les voit se représenter dans plein de dessins, ces fameuses massues Tupinamba très caractéristiques, hein, dans la même typologie, c'est un grand fût comme ça, et puis un espèce de disque rond, mais qui est tranchant, hein, c'est un disque rond tranchant.
Un gros choupa-choups.
Voilà. Et ça, on les voit représentés partout. Quoi. Et ce qui est intéressant au passage, peut-être au vol, je crois que c'est Benoît qui l'a signalé, mais je pense que vous avez vu ce terme-là. J'aime bien le terme qui a été introduit par Sturtevant, je crois. C'est l'histoire de la toupinambisation. C'est comment au 16e, 17e, l'amérindien, c'est le toupinamba. Et au 19e, ça va riper et l'Indien des plaines, ça va devenir le stéréotype, c'est l'Indien des plaines. Quoi. Et c'est assez, assez intéressant. Et du coup, on voit un tas de toupinambas. L'autre fois, je te montrais un toupinamba à Florence, dans l'armurerie de Florence, sur le plafond là, de 1570, je ne sais plus combien. C'est surtout la conquête du Mexique ou du Pérou, j'ai oublié. Mais dans un coin, il y a un pseudo-toupinamba.
Mais ça va plus loin que ça, puisque la première représentation de l'Amérindien, c'est une Amérindienne, toupinamba la plupart du temps. Et c'est même l'Amérique qui va être représentée sous la forme d'une femme toupinamba. Et quand, au 19e siècle, on va passer à un homme de guerrier des plaines. Donc on change complètement de paradigme à la moitié du 19e siècle sur la représentation, sur la symbolisation de l'Amérique et de l'Indien. Quoi.
Oui, alors donc ma question embêtante, c'est aussi par rapport à mon essai de typologie sur les armes exotiques. Ouais. Peut-être que ça ne tient pas debout et qu'il faudra distinguer entre des exotismes perçus comme archaïques hors monde, si je puis dire hors sol, ou dites ça comme vous voulez. Amérique du Sud, par exemple, je ne parle que des armes, hein, je ne suis pas en train de juger, bien entendu. Et parce que, par exemple, quand on est en milieu d'Europe centrale, les armes turques, ça s'utilise, c'est clair. Donc c'est exotique aussi, mais ce n'est pas le même type d'exotisme, si je puis me permettre. Enfin, c'est l'intuition que j'ai, c'est que il n'y a pas le même rapport à l'histoire de ces objets-là, si je puis dire, et à l'usage qu'on peut éventuellement en faire, il me semble.
Pardon, on n'en a pas parlé, mais en Amérique du Nord, c'est pareil. Donc, on va collecter un certain nombre de tomahawks, qu'on appelle comme on veut, hein, de ces casse-têtes avec des boules, etc. À Sainte-Geneviève, il y en a un qui potentiellement aurait été dessiné en 1605. Je crois qu'il y a un dessin. Voilà, mais c'est pareil, ça va. Mais c'est pareil, c'est des armes similaires à quelque part, c'est des trucs en bois. Quoi, donc, et des fois, on se demande aussi, Stéphane, on t'a pas signalé sur certaines casse-têtes, je crois, au musée de l'armée, c'est un de ceux qui vous reste. Dans lesquels on a été emmanché une hache polie. On est un peu sceptique sur ce que ça donne, ça, parce que mettre une hache polie sur un truc grand comme ça, bon, c'est un peu bizarre.
totalement inefficace.
Voilà, donc, est-ce que c'est un truc déjà fabriqué pour être vendu aux Européens, ou est-ce que c'est... Parce que le marché de la curiosité avec les Européens, ça marche très tôt. Je ne sais plus qui c'est qui signale. J'avais trouvé... Je ne peux pas m'empêcher de signaler ça dans toutes les conférences que je peux faire, notamment auprès du grand public. C'est quelques jésuites qui signalent vers 1550 que... Vous savez, parce que les toupinambas, il y a d'une part les casse-têtes et d'autre part les manteaux de plumes, les manteaux de plumes d'ibis rouge. Et ces manteaux de plumes, il y en a quelques-uns de conservés en Europe. Déjà, il y a deux typologies différentes de ces manteaux de plumes. Il y en a certains, comme au Quai Branly ou à Florence, qui sont des choses pas très grandes, en très mauvais état, etc. À Copenhague, à Bruxelles, par contre, c'est des trucs carrément avec des robes qui descendent. On sait que dans certaines fêtes américaines, des aristocrates pouvaient se vêtir de ces manteaux de plumes. Et il y a une mention quelque part de jésuites qui mentionne que les Tupinambas très vite fabriquaient des manteaux avec des plumes de poule, lesquelles poules avaient été importées par les Européens quelques décennies auparavant, et qui teignaient avec du bois de Brésil. Quoi. Je trouve ça génial. Quoi. Et je rêve que d'une chose, c'est qu'un jour, dans un musée, on trouve un manteau de plumes de poule quoi, du 16e siècle. Ça montrerait que... Et ça, c'est un débat plus global sur aussi, j'ai l'impression, partout, l'adaptation au marché... on a trop souvent, je crois, pris les autochtones pour des demeurés, mais ils étaient eux-mêmes inscrits dans des réseaux d'échanges depuis des millénaires. Et au début, on parle, je ne parle pas qu'après quand ça a été la colonisation avec conquête du territoire, mais en tout cas la colonisation avec les Français, c'était avant tout pour faire du commerce. Et donc ça veut dire, les gars, ils sont vite adaptés au marché. Hein.
Et ça va même plus loin, puisque ce n'est pas seulement pour vendre aux Européens qu'ils vont faire utiliser des plumes de poule colorées, c'est que même pour eux, une parure en plume de poule, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est la couleur. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont adopté si vite les perles de verre pour remplacer qui ne sont pas du. On pourrait croire la plume, le matériau le plus noble de l'Indien, et il en a besoin pour être reconnu en tant que tel. Pas du tout. Si vous lui donnez des tissus colorés, si c'est la bonne couleur, et ils sont très sévères sur les couleurs, ça n'a aucune importance. Et donc les plumes de poule, si elles sont bien colorées, alors. Au bois du Brésil, je suis pas sûr que ça donne quand même une coloration un peu rosée quand même. C'est un peu fuchsia. Hein. C'est pas tout à fait rouge. Ça tend. D'ailleurs, c'était très utilisé pour colorer les robes. On parlait de déforestation tout à l'heure. Les Hollandais ont quand même réussi le tour de force de déforester complètement une île qui était entièrement peuplée de bois du Brésil. Et jamais aucun arbre n'est revenu sur cette île. C'est Aruba, où ils ont coupé des bois du Brésil. Et l'île est tellement venteuse qu'aucun arbre a pu revenir, ni même un humus. Et maintenant, c'est un désert. Donc, en moins d'un siècle, ils ont désertifié complètement une île. Ça peut aller vite. Mais ce que je voulais dire, c'est que le matériau importe peu du moment qu'on a la couleur. Et là, j'en veux pour preuve, récemment, un chaman du Oshingu s'est trouvé un peu déplumé, si je puis dire, puisqu'il ne trouvait pas les bonnes plumes pour faire une couronne pour une cérémonie particulière. Et comme il était chaman, il s'est autorisé à prendre des pailles, pas des pailles McDo, mais quasiment, des pailles en plastique, pour faire la couronne, puisque les couleurs étaient bonnes, le matériau n'importait pas, ça n'avait aucune importance que ce soit des pailles en plastique. Alors ça va choquer le touriste, hein, mais absolument pas l'Amérindien, puisque... ils n'ont pas besoin d'avoir des plumes pour être un indien, quoi. Ça passe pas par là, quoi. Contrairement à ce qu'on croit.
Les Européens sont arrivés avec non seulement de la verroterie, etc., pour faire des échanges, des petits hameçons, mais aussi avec des vêtements de frise. Et de frises colorées de jaune, de rouge, de vert, enfin de couleurs flashy, si je puis dire. Enfin, c'est un anachronisme de dire ça. Mais
moi, je payais mes informateurs, les gens avec qui je travaillais en Amazonie, avec des perles. Ils ne voulaient pas d'argent, ils voulaient des perles. Donc j'allais à Lyon, à Rouget et Plé, pour acheter des bonnes perles, parce qu'ils sont très exigeants sur la qualité. Et Rouget et Plé, alors moi, j'avais les catalogues de perles, et faisait trois bleus différents. Et quand j'apportais les bleus au Wayana, il vidait complètement le sac et il le retriait en 12 bleus différents. Parce que vous voyez des nuances que le fabricant lui-même ne voyait pas. Des nuances de brillance, de densité, qui n'étaient pas dans le catalogue. Donc c'était très, très étonnant. Et c'était tellement compliqué de les payer avec des perles, notamment quand j'ai été chez les Palicourt pour faire de la céramique, et donc les femmes voulaient être payées en perles. Et donc, connaissant l'effet de la perle sur l'Indien, je faisais ça à l'heure de la sieste, à 3h de l'après-midi, il n'y avait personne dans le village, je me mettais sous un carbet, j'appelais la dame, j'ouvrais le sac, et quand je relevais la tête, j'avais à peu près 30 femmes autour de moi qui venaient de nulle part, mais qui avaient entendu le scratch du sac de perles, et donc venaient commenter la qualité de ce que je leur donnais, quoi.
On va pas être trop long, mais sur les objets européens et la fascination que ça a exercé, maintenant, en particulier, on en discutait l'autre fois avec notre collègue Laurier Turgeon, là, qui a publié un bouquin sur la Nouvelle-France, enfin, en tout cas le 16e siècle dans ces coins-là, là, d'Amérique du Nord. Maintenant, archéologiquement parlant, on a la preuve que dans un certain nombre de cas, les objets européens allaient plus vite que les blancs, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve, et donc de place en place, les Amérindiens qui étaient au contact des blancs, et ils voulaient à la limite surtout pas que les blancs aillent plus loin, parce qu'eux, ils négociaient avec l'arrière-pays. C'est le cas notamment à Montréal, les populations amérindiennes qui étaient à Montréal, au début aux blancs, ils leur disaient non, mais c'est bon, bougez pas. Donnez-nous notre matériau, on vous ramènera des pots de castor et tout ce qu'il faut. Et donc, je ne sais pas, ils ont trouvé une hache en métal vers Toronto, je ne sais pas quoi. L'archéologie canadienne, là, ils sont bien en avance. Et c'est passionnant d'ailleurs, puisque là, on mélange en plus l'archéologie. Et je pense que l'avenir dans ces régions-là, l'archéologie va apporter. Quoi. On a découvert des sites Kalinago pendant longtemps, les Caraïbes, des Antilles. On ne savait pas trop ce que c'était, archéologiquement parlant. C'était un vrai problème, les Kalinago. On les avait décrits par les chroniqueurs. Éventuellement, on avait leur boutou ici à Paris. Et ça y est, maintenant, on a trouvé des sites d'un style de céramique particulière. Et certaines céramiques avec des perles de verre européen inclus dedans. Et puis des monnaies espagnoles, etc. Et voilà, des trucs du début du XVIe siècle.
En Amazonie Un fusil qui a été échangé au XVIIIe siècle à Paramaribo mettait 15 jours pour arriver à 500 km de là sur le Rio Negro en ayant sauté de groupe en groupe, en ayant été échangé de village en village. Il mettait que 15 jours pour parcourir les 500 km de forêt pour être échangé de nouveau sur des comptoirs. C'était des comptoirs donc Paramaribo hollandais et pour être échangé sur des comptoirs portugais sur le Rio Negro. Donc ça allait très vite. Ouais.
Est-ce que je peux poser? Non, c'est fini.
Il y a du café si vous voulez à l'étage, de quoi faire une pause de. Voilà.
Bien, alors nous allons engager notre dernier moment avec Myriam Marache-Gouraud, tout d'abord à l'Université de Brest, sur l'entrée au catalogue des armes des sauvages. À toi.
Merci. Alors, à mon tour, je n'ai pas pu me priver de me livrer un petit jeu de mots, un casse-tête pour les Européens. C'était trop tentant, pardon. Je voudrais vous parler des armes des sauvages et de la manière dont elles entrent dans les catalogues, dans les premiers catalogues de curiosité. Alors, j'ai montré ailleurs dans un article que j'avais, dans une recherche que j'avais faite, sur l'histoire allégorique de la plume, que cette gravure, alors si ça veut bien, ouais, que cette gravure qui avait été prise à tort pour la première représentation d'un Indien dans une exposition sur la plume au musée du Quai Branly, exposition dans laquelle André n'avait aucune participation, et alors je dirais heureusement tu n'avais rien à voir parce que c'était une énorme erreur, et malheureusement tu n'avais rien à voir parce que tu aurais sûrement rétabli la vérité. Cette gravure donc était tout sauf la représentation d'un Indien, mais la représentation de l'incipiens dans une Bible. L'incipiens, c'est-à-dire le non-croyant, le fou, le stultus aussi, que l'iconographie médiévale coiffe traditionnellement de plumes. Et donc, il y a des représentations tout à fait similaires et qui sont parfaitement antérieures à la découverte de l'Amérique qu'on retrouve dans différentes Bibles. Alors, j'ai montré comment la plume, en fait, donc voilà par exemple encore une représentation bien antérieure. J'ai montré comment la plume change de système sémiotique à partir du moment où justement la découverte de l'Amérique advient. Et après avoir signifié la folie, eh bien, elle se retrouve en lien, son sens va s'infléchir au contact de la réalité matérielle des coiffes de plumes que l'on découvre en Amérique. Amérique elle-même peuplée d'incroyants et qui vont nus, donc à peu près à la manière du stultus de la tradition ou du silhouaticus, le sauvage qui vit dans les bois, de la représentation médiévale. Alors bon, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais je voudrais aujourd'hui considérer dans les allégories de l'Amérique ou dans les éléments typologiques classiques qu'on va retenir désormais à partir de cette époque-là dans les représentations de l'Amérique, eh bien, considérer aujourd'hui les présences des armes, parce que j'ai traité de la plume, mais il y a aussi des armes, comme on le sait, comme on l'a vu dans certaines gravures déjà projetées. Pour voir de quelle manière, en fait, aujourd'hui, c'est mon propos, m'interroger donc sur les mises en scène des premiers artefacts de ce genre dans les collections de curiosité, pour voir de quelle manière ces mises en scène ont pu influer sur les représentations et sur les stéréotypes ou alimenter ces stéréotypes, donc d'une certaine façon, quel rôle ont joué les premières vitrines européennes, les collections d'armes en particulier dans les cabinets de curiosité, pour finalement réaliser une typologie, une représentation de l'autre. Alors mon corpus de travail, celui que j'ai gardé pour aujourd'hui, ce sont les cabinets français que vous voyez à l'écran. Donc je ferai appel à ces différentes sources. Alors je commencerai donc par une petite anecdote. Alors l'avantage de passer en dernier ou presque, c'est que beaucoup de choses ont été dites. Donc merci Pierre, tu as parlé de l'affaire de Jean de Léry qui a mangé ses boucliers au retour parce que pris par la famine, il était obligé de sacrifier son perroquet bien gras. Et puis effectivement ces rondaches de cuir de tapir qu'il a fallu sucer jusqu'à la corde et manger finalement. Et cette anecdote nous dit finalement beaucoup de choses. Alors d'abord, la fascination pour les armes des sauvages, qui vient du fait que... Parce que, alors, il en parle ailleurs, bien sûr, dans l'histoire d'un voyage en terre de Brésil, Jean de Léry, il en parle ailleurs de ces rondaches. Il en parle à deux endroits. Il en parle au moment où il parle des tapirs, d'abord. Il en parle au moment où il dit, voilà, les tapirs sont comme ci, comme ça, etc. Ils ont une peau en particulier dont on fait des boucliers parce que cette peau est extrêmement résistante. Bien. Puis il en parle encore au chapitre 14 sur les armes. Donc il va avoir deux occurrences de ces boucliers pour en parler à la fin en disant qu'il les a mangés. Bon, la fascination pour les armes des sauvages vient du fait que, bien que vivant dans une grande nudité, ils ont malgré tout une supériorité dans le combat, souvent comparable à celle des meilleurs guerriers européens. Et quand Léry parle des flèches, des arcs et des flèches, il compare aux archers anglais, qui sont évidemment les connus pour être les meilleurs archers européens. Et donc le sujet d'étonnement n'est pas mince. Et lorsqu'il parle des rondaches, il dit que c'était finalement la seule arme dont ils acceptent de se couvrir, parce qu'autrement, ils vont nus. Hein. C'est vraiment l'arme par excellence pour lui. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que par arme, il faut entendre arme offensive, mais aussi défensive. Pour le coup, les rondaches sont des armes défensives. Ce qu'on peut apprendre aussi de cette anecdote, c'est que certaines armes peuvent être classées non pas parmi les armes, mais avec les tapirs. Donc selon leurs matériaux d'origine, et ça va arriver dans certains cabinets de curiosité où en fait on va ranger par matériaux d'origine. Et puis, dernière chose qu'on apprend aussi avec cette petite histoire, c'est qu'il y a un grand nombre de ces objets qui n'arriveront jamais jusqu'en Europe pour des raisons très diverses, et qu'ils restent donc relativement rares, je pense, pendant tout le XVIe et encore le XVIIe siècle. Donc ces différents points expliquent la perplexité et la valeur au sens large attachée à ces objets qui vont venir faire la fierté des meilleures collections en faisant figure de curiosité, de rareté. Et parmi les ensembles exotiques qui ne sont pas simplement constitués d'armes mais aussi d'autres artefacts, ils vont rentrer dans des ensembles, dans des panoplies à l'intérieur des cabinets de curiosité, pour peu qu'on en ait quelques-unes, et on n'en a en général pas beaucoup. Donc c'est bien rare de faire une catégorie armes, parce que c'est, bien sûr c'est l'objet qui fait la catégorie. Hein. Si on n'en a que deux, on ne peut pas faire une rubrique. Donc il importe, pour comprendre quelle place ces armes si particulières viennent occuper dans les collections européennes, de consulter les seuls témoignages qui nous restent, à savoir ces catalogues, manuscrits ou publiés, dans lesquels on va trouver des descriptions, des éléments de classement aussi, qui vont être révélateurs, d'une part, des savoirs en circulation sur ces réalia, et d'autre part, des représentations de l'altérité, voire de la sauvagerie, comme on dit à l'époque, cette sauvagerie qui se voit mise en mots, mais aussi en images, et donc qui est donnée à lire autant qu'à voir dans les catalogues. Alors, un des gros chantiers que je viens d'achever, a consisté à partir du principe qu'un catalogue de collection écrit par son possesseur ou par un secrétaire mandaté obéit à une stratégie discursive. C'est un texte qui fait exister une collection aux yeux de ceux qui en sont éloignés, que ces gens l'aient visité ou pas. Et à ce titre, les choix qui sont faits dans tel ou tel texte, dans tous ces textes-là en tout cas, sont fonction du regard que le collectionneur veut que les lecteurs portent sur sa collection. Donc il y a un ordre des rubriques qui est tout à fait concerté, il y a une manière de présenter les objets, ce qui en est dit. Tous ces éléments sont des éléments d'une rhétorique globale qui permettront de déterminer une image de la collection est montré et on peut y voir donc quelle image de chaque objet entend être véhiculée. Donc c'est particulièrement significatif pour les objets exotiques, en l'occurrence, pour lesquels il est toujours difficile pour les collectionneurs de trouver une place. C'est pour ça que je disais le casse-tête des Européens. Hein, et parfois même de trouver un nom. Et c'est pour ça aussi que je vous demandais quand est-ce qu'on commence à dire casse-tête. Le discours et les catégories, tout est à inventer en fait dans un rapport texte-image. Alors je procéderai en trois temps. Je vais d'abord évoquer les rangements. Ensuite, je vais évoquer... les savoirs et enfin la question symbolique des représentations. Donc pour ce qui est des classements, en gros il y en a trois possibles pour ces objets exotiques. Ils peuvent être classés parmi les armes dans l'idée d'une confrontation ancien-moderne et d'une confrontation Europe-reste du monde. Alors, je donne un exemple qui est tiré du catalogue de François Filliol à Toulouse. Voilà, il a installé ses armes dans un escalier qui mène à l'étage. Donc, la salle qui tient tout le rez-de-chaussée, c'est une sorte de grandes peintures et d'instruments musicaux qui sont, je lis, hein, violon, théorbe, luth, harpe, spinel, tympanon, sitar, guitare, régal, flûte d'Allemagne, cymbales, larigot, basson, serpent cornet, accordéon, tambour de basque, psalterion, trompette marine et beaucoup d'autres dont on passe les noms pour éviter la prolixité. Grand nombre de livres cantoriaux pour toutes les voix par les maîtres des chapelles les plus célèbres. Et puis alors, montant l'escalier se présentent à la vue les armes anciennes de diverses nations telles que pelte des Romains, hache consulaire, broquelle des gladiateurs, cotte de maille, corselet, mantelet, brassard, jambière, gantelet, gorgerin, bourguignotte, casque, cabasset, masse des Tartares, carquois des Parthes, arcs et flèches des Turcs, guisarmes des Gaulois antiques, épieux des Arabes, cimetières de Damas, armes des Indiens de la province du Brésil, nous y voilà, piques des Croates, arnois complets des reîtres, diverses pièces et machines pour armer les arbalètes et lancer les flèches, et une grande quantité d'olifants. Alors ici, c'est intéressant parce qu'effectivement, les armes des sauvages sont noyées au milieu de tout un arsenal, j'allais dire, d'armes. Alors ça date de 1643, hein, donc c'est milieu 17e. Et Filliol est un prêtre à Toulouse. Deuxième exemple, chez John Tradescant, qui est donc le grand collectionneur d'Oxford, qui a donné ensuite la collection de l'Ashmolean hein, aujourd'hui. Eh bien, il a une catégorie, donc là je vous projette la page de titre et le sommaire. Il a toute une catégorie pour ce qu'il appelle Warlike Instruments, European, Indian, etc., qui se trouve tout à la fin, comme vous voyez, bien après les Naturalia, etc., et avant un certain nombre, toute une rubrique qui concerne des vêtements. Donc il sépare très nettement, parce qu'il en a tellement, il est capable de faire deux rubriques distinctes, d'un côté donc les armes et de l'autre les vêtements. Alors voici le détail, donc il y a 2,5 pages pour les warlike instruments. Ce qu'on peut constater très globalement, c'est l'usage des accolades dont il est très friand dans son catalogue, qui sont parfois un peu curieuses, hein, c'est-à-dire que par exemple celle-ci là, celle-ci, elle est pratiquement illisible. Normalement, au bout de la collade, là, on met un seul terme pour que ce soit clair. Mais en fait, vous avez de très nombreuses provenances. Ce qu'on peut comprendre par cette présentation, c'est d'abord qu'il a des armes de toutes sortes et qu'ensuite, il a des armes de tous les pays et qu'il est même capable de distinguer dans les zones de l'Amérique les différentes... Vous voyez, il y a la Virginie, il y a le Canada. Bon, il y a quand même des... Il y a la Turquie, le Japon, il y a énormément de pays qui sont représentés, et pas seulement des pays extra-européens d'ailleurs, il y a aussi des armes européennes. Voilà, donc vous avez ici un principe de juxtaposition entre les pays qui illustre les deux grands principes de la collection de curiosités, à savoir la copia, l'abondance, et la diversité, bien sûr, qui doit aussi prévaloir dans ce type de collection. Donc il faut avoir des éléments très 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 variés. Et c'est ce qu'il a ici, donc quelque chose de très foisonnant chez Tradescant, donc 1656. Ensuite, donc, je mentionnerai le catalogue dont a parlé tout à l'heure Pierre, le premier catalogue de chevalier, 1694, qui est la description donc, de sa chambre de rareté, où on voit sur la gravure ce dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les armes qui sont derrière la porte. Et en fait, ce sont les armes à feu qui sont derrière la porte, parce que les flèches, elles sont sur le mur à côté de cette fameuse porte. Et ce qui fait que quand on ouvre, moi, je crois qu'on voit les flèches. Enfin, si on l'ouvre dans le sens où on est côté flèche, en fait, on se trouve nez à nez, si j'ose dire, avec toute cette série de flèches tournées vers le bas. Alors, en plus, tournées vers le bas au-dessus d'une espèce de statuette, enfin, un buste de Mercure, et donc qui sont comme des épées de Damoclès, enfin, qui sont disposées comme ça, comme si elles allaient tomber sur quelqu'un. Donc, c'est intéressant. Et la description qui correspond et que j'ai mise à côté, c'est qu'il explique, voilà, le côté droit de la porte est orné de divers beaux tableaux et l'autre est embelli de plusieurs armes indiennes. Donc ça revient à ce que tu disais, Dominique, c'est-à-dire que ce n'est pas pour faire des armes, c'est pour embellir, hein, c'est vraiment dans un but aussi peut-être esthétique, propre aux expéditions de terre avec d'autres instruments servant à la marine. On voit aussi sur la porte plusieurs armes à feu à l'usage des peuples de l'Europe. Donc ici, on voit bien que les armes sont rangées ensemble, mais quand même classées, c'est-à-dire c'est pas non plus c'est pas non plus un désordre. Elles sont classées, séparées par provenance, enfin Europe d'un côté et extra-européen de l'autre, par taille, par pays, c'est très clair chez Tradescant dans l'exemple précédent, parfois par époque et ce qu'on voyait dans l'exemple premier que j'ai donné tout à l'heure de François Filliol à Toulouse, c'est qu'elles sont rangées après les instruments de musique, et ça j'y reviendrai, comme des chefs-d'œuvre de l'ingéniosité humaine, d'une certaine manière. Les armes sont exposées, alors rappelez-vous tout à l'heure avec Filliol, dans la montée d'escalier, dispositif sans doute destiné à impressionner le visiteur, comme un peu là l'effet de la porte, qui en plus chez Filliol est sommé, juste après avoir monté son escalier, il est sommé par une inscription disposée au-dessus de la porte suivante. Il est sommé de ne pas toucher. Donc, bon voilà, il y avait ces armes qui étaient peut-être, enfin, il n'avait peut-être pas du tout envie de les toucher déjà. Et puis ensuite, on lui explique qu'il faut rester particulièrement, à sa place, disons. Hein. Voilà. Donc, comment sont-elles maintenant disposées? Alors, tout à l'heure, c'est Dominique qui évoquait ces râteliers du cabinet de Hollevorm, hein, où on voit bien là qu'il y a un ensemble ethnographique, il y a des skis à gauche, des anoraks, etc. Et puis, il y a des flèches donc, qui sont bien disposées, bien alignées. Il y a une autre possibilité, donc ça, c'est 1655. Il y a une autre possibilité, ça, c'est une gravure qui date de 1677, c'est à Bologne, le marquis de Cospi. C'est plutôt une très traditionnelle, type palais-château, en trophée. Hein, mais en tout cas, c'est toujours très impressionnant et on joue sur cet effet à produire. Alors la deuxième possibilité que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les armes soient classées, non pas entre elles, comme des armes, mais qu'elles soient à découvrir parmi des artificialia, comme on dit. Alors il y a l'exemple de Borel, 1649, donc médecin à Castres, qui a une collection extraordinaire que Pierre a saisie sur Curiositas, vous pouvez aller la lire. Et on trouve, alors j'ai bien cherché, mais on trouve peu de choses en termes d'armes exotiques. Il a un arc des sauvages et la flèche. Donc, voilà, c'est vraiment sa mini panoplie de une chose et sa chose qui va avec. Mais enfin, on sent qu'il y a quand même un ensemble dans son esprit. Et regardez autour tout ce qu'il y a. En fait, des choses, une boussole, du mercure fixe ou Pierre qui engloutit l'argent vif qu'on lui présente. Un arc des sauvages et la flèche, un plat d'écorce de coco, un gobelet de la Chine de certains joncs très artistement agencés et vernis dedans de couleur d'or, deux choses liquides et froides qui mêlées excitent en un instant une fort grande chaleur, etc., etc. Vous avez des choses très variées, mais qui appartiennent tous au domaine qu'on appelle des choses artificielles, hein, c'est-à-dire créées par la main de l'homme. Alors je pense qu'ici, bon, la proximité avec le coco et la Chine, bon, explique que l'arc des sauvages se trouve classé par là, puisqu'après vous avez un papier de Chine et d'Arménie, des paniers, etc. Donc là, c'est plutôt un ensemble d'artificialia global. C'est un peu différent chez Pierre Trichet, qui est donc un avocat à Bordeaux et qui publie son cabinet en 1635, où lui, il va placer les armes. Il a tout un ensemble d'armes et il les place très clairement après les instruments de musique, comme avait fait Filliol, en considérant que ce sont des mécanismes, en fait. Hein, il appelle ça des instruments de mécanique et notamment de musique. Donc, il a une très belle série d'instruments de musique. Il était d'ailleurs connu pour, sa collection était connue pour ça. Ensuite, viennent les armes, mais sans nouveau rubriquage. C'est toujours dans les instruments de mécanique. Donc, vous avez cette série d'armes de, que j'ai mise en haut, un poignard de Turquie, un couteau de charlatan, une masse de fer, une masse d'armes. Donc, ils sont des... Mais il n'y a toujours pas d'armes des sauvages. Et c'est seulement un peu plus loin, en fait, qu'on va découvrir un petit ensemble exotique. Après, un jeu de quilles dans une boîte qui n'est pas plus grande qu'un grain de froment, ensemble, un pareil jeu dans un tuyau de plume. Et puis, vous avez une série, là. Un cordon de chapeau, un fronteau et des bracelets faits par les Canadois, des pointes du petit porc épic, une pipe ou pétunoire des Canadois pour l'usage du tabac, le foyer duquel est une pierre verte et le tuyau de bois, des flèches des Canadois ferrées par un bout, autre flèche de Brésilien de roseau sans nœud garnie à un bout d'un bois fort dur, c'est quand même assez précis, un petit plat de la Chine, un peigne de Chine, etc. Et vous avez des chinoiseries ensuite. Donc, ici, pourquoi est-ce que... Enfin, moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ces éléments de sauvagerie, d'armes sauvages, apparaissent un peu plus loin, ils ne sont pas classés, comme c'était le cas dans d'autres collections, avec les armes européennes ? Hein, c'est bizarre. Alors, bon, la réponse que je peux donner, à titre d'hypothèse, c'est que, visiblement, ici, elles apparaissent avec d'autres objets exotiques avec lesquels on peut les regrouper. Donc, la catégorie retenue, c'est plutôt celle de l'éloignement géographique, plutôt que leur identité d'arme dans cet ensemble d'objets. Et puis aussi, ce ne sont pas des mécanismes. Hein, c'est-à-dire que comme c'était classé dans les instruments de mécanique, ce qu'on voit là, les flèches ne sont pas des mécanismes. Donc c'est peut-être logique aussi qu'elles soient un peu éloignées des fusils, pistolets, enfin voilà, de ce qu'on a vu précédemment dans le morceau de liste que j'ai cité juste avant. Voilà. Et ça fait transition vers un autre type de mise en place qui est extrêmement fréquent. C'est celui de dire, voilà, les armes interviennent dans un ensemble géographiquement unifié. C'est-à-dire, c'est Tiraco avec le Pérou et Guinée. Bon, on ne sait pas s'il a des armes, ce n'est pas marqué, mais enfin, il dit qu'il a une chambre, dans cette chambre ornée où tu gardes et Pérou et Guinée. Bon, donc ici... Dans ces circonstances-là, les collectionneurs constitueraient une sorte d'ensemble de sauvagerie. C'est ce qu'on voit là, en fait, chez Trichet, je pense. C'est ce qu'on voit aussi chez Paul Contant, qui, à la fin de sa liste en latin, publiée en 1628, fait figurer, alors, tu en as parlé tout à l'heure, hein, Pierre, fait figurer un certain nombre, je les ai soulignés, un certain nombre d'armes, mais qui sont mêlés avec des fruits, avec des naturalia, et puis avec toutes sortes d'autres objets, le canoë, etc., le maracas. Il a plusieurs objets de provenance amérindienne, et il les groupe tous à la fin. Alors à la fin, c'est quelque chose à interroger. Je pense que la fin, c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est quand même un peu le clou du spectacle, ce qu'on garde pour la fin, si j'ose dire. Et c'est aussi ce que fait Samuel Vérel, dont tu parlais aussi, donc, qui est un autre apothicaire de Saintes et qui publie en 1635, exactement à la même année que Trichet, son catalogue. Vérel crée une catégorie qu'il appelle Artificia Exotica. Et dans cette catégorie, vous trouvez aussi bien des sceaux de Tartarie, des statuettes égyptiennes, des papiers de Chine, et aussi un certain nombre d'objets canadiens ou amérindiens qu'il va pouvoir mettre en valeur ainsi. Encore un autre exemple, c'est bien sûr le super fameux exemple que j'adore absolument de Léonard Bernon, La Rochelle, publié en 1670, qui fait carrément une espèce de fiction. Alors ça, j'en ai parlé dans un autre article, donc je ne vais pas m'étendre sur la question, mais c'est extraordinaire. Il a un ensemble d'objets exotiques amérindiens qui viennent du sud, qui viennent du nord. Il y a de tout, puisqu'il y a aussi bien des raquettes à neige que des arcs du Brésil. Donc voilà. mais il en fait une fiction, c'est-à-dire il imagine que voilà, et elles ont eu un possesseur illustre. Tous ces artefacts ont eu un possesseur illustre. Il invente la personne d'un général des sauvages et qui va comme ça incarner la liste. Bon, dès lors, ça lui crée une unité particulièrement originale et qui constitue donc un ensemble de curiosités exotiques. Voilà, donc ce qu'on peut comprendre, c'est que les armes peuvent être classées à différents endroits du catalogue. Hein. Je ne dis rien, je peux pas savoir. On a vaguement des gravures, mais est-ce qu'on peut attribuer à ces gravures vraiment une vérité ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, pour le catalogue, on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui se dessinent. Alors, quels sont maintenant les savoirs, si l'on rentre dans le cœur des textes, quels sont les savoirs qui vont se manifester grâce au catalogue ? Alors, avec cette très jolie aquarelle qui vient de la collection de Manfredo Cetala à Milan, on voit bien qu'une flèche n'est pas une flèche, et ça je ne vais pas l'apprendre aux gens qui travaillent sur ces objets-là, et qu'un arc n'est pas tout à fait identique à un autre arc. Voilà. Donc quand on aura dit flèche, on n'aura bien sûr pas tout dit. Qu'est-ce que je peux observer ? Je peux observer des éléments de lexique intéressants chez Tradescant, qui est très bien renseigné à Oxford. Donc, on peut noter des mots indigènes et techniques qui sont connus. Donc, le tomahawk, il en a 6 sortes, mais il connaît le mot tomahawk. Évidemment, il est quand même anglophone. Hein, donc, et puis, il y a aussi ce terme qui désigne, je crois, la sarbacane, hein, que j'ai entouré. En bas, enfin, d'après la description, c'est clairement une sarbacane. Donc voilà un terme des termes rares. Paul Contant, lui aussi, se distingue, donc l'apothicaire de Poitiers, se distingue par l'emploi d'un lexique assez varié qu'il essaye de préciser, procédant le cas échéant à une reformulation lorsqu'il utilise deux mots pour cerner au mieux un référent. Donc c'est le Pugio Seu Sica Indica et ensuite le Sica Americana Altera. Donc c'est pas tout à fait une synonymie et ça n'est pas très fréquent d'utiliser cette synonymie, donc c'est pour ça que ça mérite aussi d'être remarqué. Est-ce que Sica précise Pugio ? Il y a une différence de lame en fait entre ces deux types d'objets qui sont des espèces de couteaux poignards et les références sont très proches. En fait, Sica signifie une lame plus tranchante parce que Sica est destinée à couper et Pugio à pointer pour enfoncer un coup. Donc, le collectionneur est un apothicaire. Il a peut-être l'habitude de découper aussi des plantes, etc. Il n'est pas spécialiste des armes blanches, mais il va bien distinguer, finalement, deux objets. Le deuxième lui semble plus clairement être un sica que le premier, voilà, visiblement. C'est bien ça ? Oui. Le deuxième est appelé sica, altera, autre sica. Donc, le mot seu, qui veut dire ou bien... témoigne donc d'une tentative de trouver le mot juste dans l'idée de parvenir à une plus grande précision par la reformulation, soit d'une incertitude du collectionneur qui ne sait pas au juste quel nom il peut donner à cet objet, qui est peut-être à ses yeux entre les deux. Et cette recherche de précision aboutit à une caractérisation plus sûre, plus juste, la ligne d'après, Sica, Americana, Altera. Au sein donc d'une même dénomination générique, il peut exister des possibilités lexicales, parfois des suffixations pour dire la taille, donc en olus ou coulous pour dire que c'est plus petit, ou pour tenter de formuler donc au plus juste le produit d'une observation ou la connaissance d'un usage. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des savoirs sur les provenances. Sur les provenances, parce que vous avez des collectionneurs qui se distinguent par la finesse des connaissances géographiques. Enfin, finesse, encore une fois, c'est peut-être les marchands au pied du bateau qui leur ont vendu ça comme ça. On n'en sait rien, mais en tout cas, ils affectent de connaître la provenance précise. Donc, en distinguant le Mexique, le Brésil. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est que, en fait, c'est Trichet. Le catalogue de Trichet est bilingue. Il y a une partie latine et une partie française. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait l'une n'a pas la traduction de l'autre mot pour mot, Mais en tout cas, donc, j'ai passé en vert les termes qui pouvaient indiquer une provenance. Et dès lors, par exemple, en bas, là, sur les flèches, faire une grande différence entre les flèches des Canadiens et les flèches des Brésiliens, qui sont constituées par des matières différentes et qui sont donc finalement aisément distinguables selon, selon ce qu'il dit là. D'autre part, le bonnet d'herbe des Mexicains, bon là c'est pas une arme, mais enfin en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelque chose de précisé sur la provenance géographique ici dans la description. Vous voyez, quand on voit des descriptions aussi sommaires, on s'accroche à chaque mot et chaque mot nous dit quelque chose. Enfin, chaque mot a son poids en fin de compte. Puis il y a autre chose encore qui va être précisée par vos, par nos descriptions, toutes sommaires soient-elles, c'est également la matière, le matériau, donc herbaceus, hein, qui va être traduit, alors ça, c'est un peu renié, mais en fait qui va être traduit en français dans la version de Trichet par « d'une certaine paille », par exemple. On a chez Contant, on voyait tout à l'heure, des bois qui sont mentionnés. Hein, alors là, je n'y reviens pas parce qu'en plus, Pierre en a parlé, donc l'ébène, le reboutant, etc. Bon, regardez, alors on parlait tout à l'heure du jacaranda, c'est chez Bernon, sa bouteille, alors il y a la bouteille qui est couverte des dessus d'une tortue, et puis sa massue faite de bois de Jacques Landa, donc avec cette petite erreur, peut-être qu'il a entendu simplement ce mot-là, il a pas, il l'a jamais vu écrit. Il l'a retranscrit comme il pouvait, Jacques Landa, bon, ça fait Jacques Aranda. Donc, mot rare, évidemment, pour lui, visiblement inconnu, mal entendu, jamais vu, écrit, mais en tout cas, par la mention de ce mot bizarre, volonté très nette de se singulariser aux yeux de son lecteur en proposant un inventaire différent de tous ceux qu'on aura lus ailleurs parlant de ce type d'objet. Alors, chez Vérel, je vous ai donné une petite citation, où j'ai souligné les mots qui indiquent un matériau, donc de roseaux et de dents de l'ami. Là aussi, il a vraiment, semble-t-il, il s'est livré à une observation assez fine pour pouvoir faire cette, cette description. Alors pourquoi mentionner le matériau ? Bon, bah, la question des savoirs, elle est souvent liée à leur fonction d'émerveillement, bien sûr, hein, d'émerveillement pour le lecteur, et puis d'émerveillement, parce que bon, ce sont des matières qu'on ne connaît pas, parce que même si on connaît des flèches en Europe, on l'a bien dit, bon, la flèche, c'est vraiment un objet qu'on connaît. Mais par contre, des flèches avec des dents de l'ami, au bout, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc c'est ça qui va faire la particularité, qui va faire que cette flèche, en fait, elle a quelque chose de spécifique, elle a quelque chose qui la ramène à la question d'une curiosité. Voilà. Alors, par contre, voilà, on pioche comme ça des éléments dans les catalogues, c'est extraordinaire. Sauf que avec celui-ci, dont on a quand même beaucoup parlé aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'il y a cette jolie gravure qu'on a tous regardée en long, en large, en travers, avec une loupe. Vous avez colorié tout à l'heure, etc. Sauf que, en fait, ce qu'il y a dans le texte, qui est pourtant un énorme in-folio de plus de 200 pages, ce qu'il y a dans le texte, il n'y a rien dans le texte. C'est-à-dire, il y a juste ça. Ces deux lignes-là qui sont annoncées dans la préface. C'est tout. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, les objets exotiques sont les grands absents de ce catalogue de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Et ça révèle peut-être à quel point leur classement est problématique. Et il a deux grandes parties dans son catalogue, le Père du Molinet, ces deux grandes parties-là. Histoire antique, histoire naturelle. Et puis dans l'histoire naturelle, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Je vous mets les six catégories, elles sont magnifiques, de belles gravures, tout ce qu'on veut. Mais force est de constater quand même qu'il n'a pas réussi à trouver une place, j'allais dire. Leur présence, pour les exotica, donc leur présence est problématique à décrire, même quand elle est attestée dans un sommaire, puisqu'on a cette phrase sommaire dans la préface, et puis ça s'arrête là. Donc c'est un point aveugle de ce catalogue, malgré une belle annonce en préambule et malgré la présence aujourd'hui. C'est les seuls reliefs aujourd'hui du cabinet. C'est ce qui était installé, donc on le sait, dans le bureau, enfin dans les coursives de Sainte-Geneviève, parce qu'en fait, on n'avait pas su leur trouver de place, ça non plus. Alors ça, André en parle très bien, il le sait parfaitement, mais on n'avait pas su leur trouver de place À ces curiosités, les médailles étaient parties à la BNF, hein, bon bref, pas à la BNF, à la Bibliothèque Royale, cabinet des médailles, etc. Tout avait trouvé sa place, les animaux au Muséum d'Histoire Naturelle, mais les sauvageries, on les avait laissées à la bibliothèque. Alors elles ont été exposées sur les murs du vestibule au XIXe siècle, elles ont été rangées dans des armoires, sorties pour des expos temporaires, finalement installées dans le bureau du conservateur. Donc Yves Perret, qui était le conservateur jusqu'encore récemment, on parle très bien dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et parce que c'est lui qui a initié le fait de les remettre en vitrine à côté de la réserve. Et maintenant, elles sont donc exposées dans des vitrines, en bordure, enfin dans une coursive qui borde la réserve. Donc vous les connaissez très bien. Je fais simplement défiler quelques éléments. Mais littéralement, il y a des restes matériels, mais on n'a plus les textes. Alors c'est ça, c'est un peu le paradoxe de ces... de ces curiosités exotiques là. Voilà, alors j'en viens à mon troisième point qui porte sur la question des représentations symboliques. Et tout d'abord, je pense que ce qu'on peut dire, ce qui est volontiers mis en avant par les discours, c'est d'une part l'effroi, et c'est pour ça que je parle du fait d'ensauvager les choses, et d'autre part la domination. Donc ce sera mon deuxième point dans cette troisième partie. Alors, très important pour ce qui est de l'effroi et de l'ensauvagement des choses, très important me semblent les déterminants, parce qu'on peut impressionner par le nombre, en fait. Alors là, je prends des extraits du catalogue de Chevalier, enfin d'un des états du catalogue de Chevalier, où il a une... Alors j'ai marqué en marge un petit repère pour qu'on voit où est-ce que... Donc à la planche, il pend une flèche dont le bout est de fer et empoisonné. Mais ça pend. Ça pend au-dessus de votre tête à une planche, une pique d'un bâton de canal, etc. Bon, après, dans un autre passage du catalogue, on voit qu'il a 3 faisceaux de flèches ferrées, 2 faisceaux de plumes de porc-épic. Autre extrait, il dit qu'il a 13 arcs des Indes, 2 flèches, un faisceau de flèches, un bocal des Indes, bah ça c'est autre chose, 2 flèches encore après. Bon, là, on voit qu'il y a une espèce de désordre. Hein. Mais juste avant toutes ces armes, il y avait quand même, au numéro 1944, un serpent de 25 pieds de longueur qui a dévoré 3 nègres. Donc, vous voyez, le serpent était l'arme, en fait, du crime, si j'ose dire, du triple crime. Et vous avez comme ça des effets d'effroi aussi par des contiguïtés, bien sûr, par des chiffres qui sont indiqués. Il y en a 5, il y en a 3, bref... C'est évidemment assez important de pouvoir dire cela. Bon, il y a aussi un élément qui est, dont je parlais un peu tout à l'heure, mais pour ensauvager tout un groupe d'objets dont on ne sait pas trop d'où ils sortent et comment ils sont là, le mieux, c'est de poser un déterminant possessif. C'est son lit, ses souliers, sa pipe, ses cuillères, sa gibecière. Bref, on a l'impression que le général des sauvages, il vient de quitter la pièce. Il va revenir à tout moment, son lit, enfin c'est un peu boucle d'or et trois ours, hein, son lit où couchait le grand général des sauvages. En plus, il est grand, donc bien sûr, le lit doit être très très grand. Bref, ça donne comme ça une espèce d'effet d'impression assez effrayante et aussi d'admiration. Et il y a autre chose aussi qui va être assez efficace, je pense, pour marquer à quel point les mœurs sont sauvages, étranges. C'est le « il » au pluriel que vous avez tout à la fin de l'évocation, parce qu'au bout d'un moment, comme le général des sauvages, il a des raquettes à neige, c'est assez difficile de lui attribuer aussi les arcs du Brésil. En fait, hein, c'est incompatible géographiquement. Donc, quand il en arrive aux arcs du Brésil, il n'y a plus de possessif. C'est des arcs du Brésil, c'est pas ses arcs, évidemment. Et puis, de l'icou, de ce qu'il, et là on passe au pluriel, de ce qu'il mettait au cou des pauvres chrétiens prisonniers. Et là, il y a vraiment cette espèce d'effet de la coutume sauvage qui va être bien marqué par ce il. Qu'on trouve aussi, je trouve, avec la sarbacane de Tradescante, quand il dit « some piton or trunk wherewith they execute men to death with poisoned arrows ». They execute, bon, on sent bien là que c'est tout à fait, c'est tout à fait effrayant. Alors après, vous avez aussi des effets des marques de... voisine de l'effroi, il y a l'admiration aussi. L'admiration, ça peut être marqué par des superlatifs comme Lewisimae, donc très légère, ou ingeniosa arte contextus, tissée avec un art ingénieux. Donc cette admiration-là, c'est un peu l'envers de l'effroi, mais c'est toujours un jugement appréciatif et impressionnant. Et on peut noter qu'un arc des sauvages et la flèche, que je citais tout à l'heure, des sauvages n'insiste pas du tout sur une provenance géographique, mais plutôt sur des mœurs, en fait. Un arc des sauvages, et sur leur violence ou leur barbarie supposée, enfin leur sauvagerie supposée. En augmentant, si on veut, la représentation conceptuelle, de la carte et des distances. Donc dire sauvage, quand on n'a rien à dire, on peut toujours dire sauvage, en fait. Ça confère à l'objet une force évocatoire extrêmement effrayante et frappante, plus encore peut-être que la mention exacte d'une provenance. Et puis là, quand on voit au sein de cette liste-là, un arc des sauvages, oui, et la flèche, c'est comme si on faisait entrer un peu le loup dans la bergerie. Voilà. C'est l'effet sans doute à produire. Alors, dernier point, pour finir sur cette question des représentations, je pense qu'il faut parler, puisqu'on est en train de parler d'armes, je pense qu'il faut parler de la question de la domination politique et militaire, parce que quand qui dit armes dit combat, dit conflit. Les armes, ce n'est pas un sujet anodin. Elles sous-tendent des notions de conflit, de défaite, de victoire, de prisonnier, de blessé, de mort, de supériorité, en un mot, de domination. Or, c'est bien ce qui est à l'œuvre dans la situation quand même des premiers contacts et de la colonisation naissante, où l'on ne sait pas encore clairement qui l'emportera, je pense. Et il y a une iconographie sanguinaire, on a vu tout à l'heure, qui se met en place dans les allégories, insistant sur la vulnérabilité de l'Européen. Alors, on a montré cette image tout à l'heure, qui est celle de Hans Staten, la vulnérabilité de l'Européen et sur la brutalité de l'Amérique. Le guerrier est toujours, enfin, l'homme, en fait, est toujours représenté, vous l'avez dit aussi, avec une arme ou plusieurs, et même quand on ne voit pas son corps entier, on voit bien son arc très très largement dans la représentation de Léry. On voit quand même aussi une tête décapitée roulée par terre, et ça, ça va être une constante très importante. Quand je regarde ce livre de costumes, le recueil de la diversité des habits publié en 1567, au sujet de l'homme sauvage, je trouve évidemment un siwaticus, une espèce d'homme sauvage à façon médiévale avec un velu avec une massue, et puis je vois pour le Brésilien d'autres types d'armes, l'arc, la flèche, bien sûr. Alors tout ça va finalement se retrouver réinvesti, bien sûr, dans le fameux frontispice d'Ortelius, dont la première publication date de 1570, où l'on voit très nettement tous les stéréotypes se mettre en place, et en particulier la présence toujours récurrente d'une tête coupée, qui, notons-le tout de même, hein, puisque là, vous avez les quatre parties du monde, hein, l'Europe en haut, l'Amérique en bas, l'Afrique et l'Asie, de part et d'autre. Alors, la tête coupée, elle est là pour l'Amérique, on la voit, l'allégorie la tient dans sa main, mais notons bien quand même que pour les autres parties du monde, aucune arme et aucune tête coupée. Donc, c'est tout de même tout à fait caractéristique. C'est ce que montrera Ripa dans son traité L'iconologie, où quand il représente l'Amérique, il a également en tête la nécessité de mettre non seulement des plumes sur la tête, mais aussi arc, flèche, bête sauvage et tête coupée entre les deux pieds de du personnage. Hein. Et c'est ce qu'on trouve, mais régulièrement. Et ici, encore une fois, c'est peut-être plus esthétisé, mais si on regarde de près, on a bien la tête coupée et percée, en plus pourfendue d'une flèche. Voilà. Donc, je pense que les armes ne servent pas qu'à décorer les cabinets de curiosité. On les montre en général comme terriblement offensives, et envers des Européens, car ces têtes coupées sont barbues, donc typiquement des têtes européennes, terriblement offensives, et leur présence pourrait s'apparenter, dans cette perspective des rapports conflictuels, comme dans l'Antiquité, les butins dont on faisait collection, dont on faisait parade avec des expositions publiques au retour d'une victoire, pourraient s'apparenter à des spolia, hein, ce qu'on appelle dans l'Antiquité les spolia, c'est-à-dire le butin de guerre rapporté par les armées lors des campagnes de conquête, puis exhibé publiquement lors de processions triomphales, de cortèges glorieux, ou offert en offrande dans les temples dans l'Antiquité. Et considéré sous cet angle, alors vous comprenez où je veux en venir. Moi, je veux en venir à la question du trophée, en fin de compte. C'est-à-dire que considéré sous cet angle, les arcs, les flèches, les massues qui accompagnent systématiquement les portraits de sauvages américains prennent peut-être une autre dimension, et leur présence dans les collections européennes est aussi à interroger et peut-être à interpréter comme un signe de domination politique et militaire de l'Européen. Que dire enfin des trophées proprement dits ? Et là, je vais juste terminer avec un élément qui a été mentionné rapidement par Pierre, mais qui me semble capital, c'est la question des colliers de dents. Alors, moi, ça me plaît beaucoup parce qu'effectivement, on en trouve beaucoup. Enfin, on en trouve, quoi. Et alors, voilà un petit échantillon de colliers de dents. Alors, j'en trouve chez Laurent Joubert. Alors, lui dit que c'est un petit collier d'os ou d'osselet, mais qu'il met en lien avec les anthropophages, hein, c'est-à-dire mangeurs d'hommes, qui ont coutume de composer en forme de collier avec des ossements des hommes qu'ils ont mangés. Ils se les suspendent ensuite à la cuisse ou au cou en guise de parure. On m'a donné divers exemplaires de ces ornements que j'ai expédiés à Bâle par la suite. C'est Thomas Plater qui parle et qui a visité donc ce cabinet de Laurent Joubert en 1596. Ensuite, chez Paul Contant, on en trouve effectivement un autre qui arrive tout à la fin. C'est vraiment le dernier objet des exotica. Donc j'ai traduit pour vous parce que c'est en latin. Donc vous pouvez lire. Les Indiens américains, après avoir vaincu et surpassé leurs ennemis, confectionnent des colliers avec les dents de ceux-ci. Et plus ceux dont ils ont triomphé sont nombreux, plus ils en tirent de gloire, et surpassant les autres, ils sont élus et admis à diriger les batailles. Donc là, il a pas mal d'éléments quand même sur les mœurs. Hein. Samuel Vérel, donc un autre apothicaire, ils se connaissent, etc. Il a aussi son torquis, alors son collier, confectionné par les Américains à partir des dents des multiples ennemis ayant été vaincus. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé de Léonard Bernon. Alors lui, il a deux choses. Il a un triomphe de dents des chrétiens. Alors, hein, en plus, là, il y a vraiment le mot chrétien, hein, qu'on n'avait pas dans les autres descriptions. Un triomphe de dents des chrétiens tués en guerre et des ennemis qu'il a mangés. Donc il, c'est toujours le général des sauvages dont il avait créé la fiction au départ. Et puis vous avez un objet un peu, enfin, que j'ai gardé avec ceux-là parce que c'est les licous. De ceux qu'il mettait au cou des pauvres chrétiens prisonniers. Voilà. Donc ici, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont, je pense, des objets extrêmement complexes, comme le montrent les manières de les décrire, c'est-à-dire complexes, je veux dire, aux yeux des Européens. Ce sont d'abord des trophées qui sont réalisés aux dépens des Européens, outre-Atlantique, avec des parties humaines découpées, des parties humaines européennes découpées, puis portées en parure, en collier, donc un artefact amérindien réalisé avec des restes humains européens. Ils ont évidemment une forte signification sur place, on nous le dit. Ils figurent la victoire, ils figurent l'infériorité, qui est très bien marquée par ces descriptions, les pauvres chrétiens prisonniers, les hommes qu'ils ont mangés, il y a le mot tué, vaincu, surpassé, etc. Donc c'est vraiment un objet qui rend visible par sa présence même les rapports de force, d'où l'alternance peut-être des noms colliers, simplement voilà, et triomphe tout de même, hein, parce qu'il y a le triomphe dedans chez Léonard Bernon. Il n'appelle pas ça un collier, il appelle ça un triomphe. Alors Joubert parle de parure, de fierté. Contant informe aussi son lecteur sur les conséquences de l'accumulation de tels trophées, c'est-à-dire la reconnaissance de la valeur d'un guerrier, les honneurs militaires, les promotions, les distinctions au sein des autres guerriers. Et Bernon dit beaucoup plus, puisqu'il montre que les ennemis sont des chrétiens, donc pas de doute, nous sommes ces fameux ennemis, enfin le lecteur lambda s'identifie. Il emploie le mot triomphe, donc beaucoup plus signifiant que collier, parce que c'est un mot qui a un sens militaire très net. Évident en tout cas, donc donne une valeur militaire à l'objet. Et enfin, il ajoute le cannibalisme quand même, puisque ce sont les ennemis qu'il a mangés, et c'est forcément très, absolument terrifiant pour un Européen. Donc, d'une part, il y a ça. Et puis, d'un autre côté, quand même, ces colliers-là, ils sont revenus en Europe. C'est-à-dire que, dans un second temps, dans un premier temps, le général des Sauvages en a fait une collection de toutes ses dents qu'il a exposées sous la forme d'un collier sur son propre corps. Donc, il y a eu une appropriation, si on veut, symbolique du corps de l'Européen. Et puis ensuite, la dimension est redoublée au sens où cet objet-là, il a été repris quand même. Il a été repris, il a été rapatrié, comme si on rapatriait un peu la dépouille des pauvres chrétiens et qu'on, d'une certaine manière, qu'on réparait, si j'ose dire, l'affront, la mutilation, autant que l'infériorité, d'une certaine façon, puisqu'on est celui qui a repris le trophée, quoi, en fait. Et donc des objets de mémoire, alors qui ont vraiment leur place au musée, comme le signe, comme étant signe des affrontements, de la sauvagerie de l'autre, confirmé très nettement par le fait que ces objets sont souvent placés à la fin de la liste. Et dès lors, sous ces airs un peu indolents, l'Amérique, qui tient quand même sa flèche à la main, hein, elle est donc pleine de richesses, certes, et de nouveautés, comme on le voit là, mais elle a aussi une arme à la main, même assise sur sa tortue, contrairement à l'Afrique, qui n'a absolument pas d'armes. L'Amérique donc est donc certes pleine de richesses et de nouveautés, mais elle est également extrêmement armée et redoutablement batailleuse à chaque fois qu'on en fait l'allégorie. Voilà, donc je conclus en vous rappelant, alors vous rappelez de la diapo première où c'était un fou emplumé qui avait dans la main un moulinet. Un petit moulin à vent, bien inoffensif et bien risible. On est passé, via la massue de l'homme sauvage, à une vision beaucoup plus inquiétante et, on peut le dire, à un véritable casse-tête, au propre comme au figuré, à faire entrer dans les collections et surtout dans les représentations. Alors, l'inventaire proprement dit d'une collection, derrière l'apparente sécheresse d'une liste, on le voit, révèle bien des enjeux et des représentations variables de la sauvagerie américaine. L'arme des sauvages a elle-même une sémiotique encore glissante, encore sauvage au sens où l'entendait Michel Jeanneret quand il parlait de sémiotique sauvage, c'est-à-dire d'une sémiotique qui se cherche, qui se redéfinit, qui reconfigure ses frontières. En effet, l'arme des sauvages peut être intégrée ou non à nos collections d'antiques, à nos collections d'instruments de musique, isolée avec des objets lointains, rangée avec des végétaux ou dans le voisinage d'autres armes. Bref, elles exposent leur paradoxale expertise aussi parce qu'on admire leur fabrication. Ce sont des armes extrêmement paradoxales parce qu'elles sont à la fois très légères et très résistantes et très redoutables, alors qu'elles n'ont pas besoin de poudre ni de canon. Mais surtout, collectionner des armes et des trophées, cela a un sens qui me semble dépasser celui de la collection de vanneries ou de souliers, c'est-à-dire que l'entrée des armes dans les catalogues contribue finalement à nourrir une riche iconographie allégorique qui aura la vie longue. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour ce travail systématique. Ça nous est très utile, je crois, et c'est intéressant. Met sur la table pas mal de problèmes. C'est bien qu'on finisse par des problèmes plutôt que par des solutions. Je fais deux remarques avant de passer. Vas-y, si tu veux. Allez-y.
Oui, j'avais juste une petite question. Vous n'avez aucun doute que toutes ces dents, c'est quand même des témoignages de seconde main, hein, de collectionneurs. Soit humaine, puisque tout ce qui a été étudié depuis que je sache dans les musées sont toujours des dents de singes assez communes en Amazonie, à vrai dire. Et j'ai pas souvenir de mention que ce soit dans la muséologie, l'histoire ou l'ethnologie de dents humaines vraiment en trophée. C'est toujours des dents de singe, à vrai dire. Donc,
oui, oui.
Je voulais savoir ces collections qui sont désignées sont vraiment des dents humaines.
Mais écoutez, en fait, il ne nous reste pas les objets. Donc, en fait, ce qui, j'ai découvert cette, cette chose-là, le fait que ça soit des dents de singe, j'ai découvert assez rapidement quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Au début, j'étais un peu déçue. Et puis en fait, j'ai trouvé que ce n'était pas décevant du tout. Oui, non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler sur justement la rhétorique en fait qui est mise en jeu. Peut-être que eux s'imaginent que ce sont des dents humaines. Bon, ça, on le saura pas. Et puis qu'ils maquillent, ou alors ils savent que ce sont des dents de singe. Mais enfin, comment pourraient-ils le savoir? Je crois que ce qui est important, c'est qu'ils pensent que ce sont des dents humaines. C'est ça qui est important. C'est que à ce moment-là, à cette époque-là, on imagine que le collier qu'on a sous les yeux, c'est un collier de dents humaines, et donc on l'intègre, on le considère comme un trophée et comme quelque chose qui serait une prise de guerre, quoi, quasiment, faisant suite à une autre prise de guerre. Et c'est tout ce que je dis, bien sûr. Je pense que bon, c'est très difficile. J'en ai vu aucune attestation, moi, non plus. Hein. Si vous me le confirmez, c'est que...
À Branly, donc, dans les quelques rares collections, peut-être d'Ancien Régime, avec des colliers de dents, a priori, ce n'est pas des dents humaines, effectivement. Il faudra les déterminer dans le détail, mais il y a beaucoup de dents de singes ou d'autres mammifères amazoniens. Mais ça, c'est un travail à faire. Mais tu as raison, Stéphane, c'est plutôt...
Oui, mais peu importe, j'allais dire. Ce
qui importe, c'est ce qu'ils en disent.
Soit ils le croient, soit ils ne le croient pas du tout, mais ils le font croire.
Oui,
et on est du côté de l'ensauvagement, c'est un bon terme. Oui. Et moi, je suis frappé aussi, puisque j'ai pris la parole sur les dernières images que tu as montrées, il y a le côté féminin. Alors,
oui.
Chaque fois, c'est une femme, c'est une sorte d'Amazon sans jeu de mots. Enfin, bon, bref.
Oui, c'est l'allégorie, quoi.
Oui, mais il y a des allégories quand même masculines, et ça rend la chose encore plus terrible.
Les allégories des continents. Les allégories des continents, ce sont des femmes.
Souvent, mais toujours.
Bon, non, les allégories des continents, c'est toujours une femme.
Attendez. Oui, mais.
À l'origine, ce sont des déesses grecques et ils n'ont pas trouvé pour l'Amérique de déesses grecques qui correspondaient. Du coup, ils ont pris une Amazone. C'est l'origine de l'allégorie féminine.
Moi, je voulais dire un mot sur revenir sur Du Molinet. C'est très curieux, effectivement. Moi, je suis convaincu, il ne peut pas se passer des armes. Et je crois que c'est vraiment esthétique. Il faut ces trophées-là qui équilibrent l'image. Après, il ne sait pas quoi en faire, il n'en fait rien. C'est clair. Alors, il ne faut pas oublier, me semble-t-il, que ce cabinet, il est créé pour prolonger la bibliothèque. Et clairement, il n'y a pas beaucoup de livres, et en tout cas, s'il y en a, ça n'intéresse pas, sur les armes. Donc, ce n'est pas un objet d'étude, et en tout cas, ce n'est pas le sien. C'est clair. J'aurais tendance à considérer que ça n'intéresse pas forcément non plus beaucoup le pouvoir, puisqu'on sait que Louis XIV vient de servir de médaille, etc. Si les armes sont toujours là, c'est que ça n'intéresse pas, me semble-t-il. Bon, c'est des armes communes, en réalité, enfin... Ce qu'on trouve à Sainte-Geneviève, il n'y a pas d'armes extraordinaires, en fait.
Bah, en fait, il y a quand même. Je crois que le casse-tête vient de Péresque.
Oui, mais.
Donc il est assez content. Mais comme il y a d'autres objets aussi qui viennent de Péresque, bon.
Bon, mais en tout cas, OK pour la femme dans l'allégorie, c'est tout de même intéressant que la question des armes soit liée à la représentation de l'Amérique. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et je n'en déborde pas. Je pense que ces armes-là n'ont pas. Dans les cabinets, n'ont pas tout à fait le même statut que les armes turques, par exemple. Donc, il y a peut-être à creuser de ce côté-là. Mais enfin, je pense que c'est vraiment intéressant que tu aies pointé ça, que tu aies dégagé ce fait, peut-être pas systématique, mais récurrent tout de même, que dans l'allégorie de l'Amérique, il y a une présence des armes particulière. C'est peut-être une piste à creuser. Quoi. C'est pas n'importe quel type d'exotisme, si je puis dire.
Du coup, en t'écoutant, je me disais que sur la question du classement, il fallait aussi essayer de voir peut-être sur les archives révolutionnaires où il y a vraiment une méthodologie qui se met en place. Il y a une certaine urgence, manifestement, à saisir les collections, à les inventorier, à les transférer dans les nouvelles institutions muséales qui sont en train de se créer. Et en même temps, il y a un vrai souci du classement. C'est notamment Bertrand Daugeron hein, qui a très bien montré ces questions en partant notamment du Muséum des Antiques et du Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, je pense toujours, par exemple, à l'inventaire Rodot, où on a quand même énormément de pièces, donc on voit bien les choses, et on voit que par caisse, il y a un souci de classement. qui est sous-jacent, c'est-à-dire qui n'est vraiment pas expliqué par celui qui a fait le classement. Mais on voit qu'il y a ce genre de soucis. Alors, est-ce qu'on va classer les objets exotiques parmi, dans des caisses à part qui seraient uniquement pour les objets exotiques? Est-ce qu'on va classer certains en fonction des matériaux? Et donc, il y a ce mélange, effectivement, et on retrouve un peu la typologie que tu esquisses là-dedans. Mais je pense que voilà, ça permettrait d'amplifier le corpus. Bon, ce serait, à mon avis, assez intéressant.
Mais je crois qu'au 18e, il y a beaucoup plus de savoir. De toute façon, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'informations sur les... Quand tu lis le catalogue de Davila, par exemple, tu t'aperçois quand même qu'il est très, très informé.
Ouais, alors, pour le coup, Davila est un cas vraiment très à part, parce que c'est vraiment le curieux extrêmement éclairé. Hein. C'est-à-dire qu'on peut même penser qu'il a pris des notes quand il acquiert, puisqu'il va capter quand même quasiment tous les cabinets de curiosité qui sont en vente lorsqu'il est à Paris. Il fait la razzia. Hein. C'est quasiment tous les objets sur lesquels on a travaillé, notamment avec André, passent à un moment ou un autre par la collection Davila. Mais on voit effectivement qu'il y a certes plus de connaissances, mais il y a aussi ces mots génériques. Hein, les canadois, on les retrouve. On retrouve l'idée. Alors effectivement, on étend le champ des connaissances, c'est-à-dire qu'on trouve des Indiens du Mississippi, mais bon, qui sont dits pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, sans que ce soit forcément des Indiens de la vallée du Mississippi tels qu'on pourrait les entendre aujourd'hui. Donc voilà, il y a effectivement plus de connaissances, mais il y a encore aussi énormément, je pense, de termes assez génériques qui circulent.
Oui, je vais terminer. Je voulais faire une prise de parole ultime plutôt pour déstabiliser qu'autre chose. J'avais dit que ça serait court, c'est très bien. Donc j'ai 10 minutes. Oui, je veux bien. Donc je voulais parler un tout petit peu de Charles Patin et de John Evelyn, en fait. Je vais le faire rapidement, donc non pas en creusant la chose. Je n'ai pas le temps, mais il faut qu'on s'arrête à 30 piles ou si je peux déborder un tout petit peu. Il faut qu'on parte à moins le quart. Bon, allez, 35. Bon, Charles Patin, très vite, relations historiques et curieuses, fin des années 60, enfin début des années 70, mais les voyages sont antérieurs. Je vous rappelle, c'est un expert, entre guillemets, français, malvenu en France pour différentes raisons, un petit peu, il a dû quitter la France rapidement, fils de Guy Patin, le fameux médecin, et surtout, ses relations historiques et curieuses, au fond, ce sont des comptes rendus de voyages qu'il fait à la demande de princes germaniques. Alors, il faut absolument ne pas l'oublier, c'est très important. J'ai mis 3-4 extraits pour terminer. D'abord, ce qu'il dit du château d'Ambras, je vous rappelle, c'est l'un des tout premiers textes du XVIIe siècle, donc, où on évoque une visite précise, il y a plusieurs pages, de la collection d'Ambras. Et j'en ai pris 2 extraits. De là, je passais dans 2 galeries pleines de toutes les différentes armures, pardon, il y a une faute, qui sont en usage aujourd'hui et qui l'étaient dans les autres siècles. Alors, je ne vais pas tout commenter, je n'ai pas le temps, mais je trouve ça intéressant qu'il pointe à la fois l'aspect, disons, historique dans les autres siècles, mais aujourd'hui. Alors, je suis peut-être obsédé par cette question-là, mais je me pose toujours la question de savoir ce que font ces armes-là. Alors, on l'a déjà dit sur cette collection, mais c'est intéressant, me semble-t-il, qu'il précise des armures en usage aujourd'hui et qu'il était dans les autres siècles. Elles me firent faire cette réflexion que les hommes, pour avoir des peaux de fer et d'acier, ou au moins des habits de cette étoffe, n'étaient ni invulnérables, ni mortels. J'y vis les... Ça, c'est la pente de Charles Patin qui est de philosopher, si je peux dire, de manière un peu simple, sur à partir des curiosités. J'y vis les armes des 2 Maximiliens, de Charles Quint et de quelques autres empereurs. J'y vis celle du roi François Ier avec l'habit qu'il avait à la bataille de Pavie, ce qui me fait souvenir, j'en avais déjà vu un au cabinet de Bruxelles, de telle sorte qu'en ce jour-là, il mit 2 habits, où ces habits furent partagés pour en faire valoir la conquête à Bruxelles et à Innsbruck. Alors, je cite souvent ce passage, il est assez marrant. Bon, c'est juste pour vous rappeler, certains d'entre vous l'ont dit dans la journée, qu'on est aussi dans la fabrique, si je puis dire, de faux, ou le trophée qui n'en est pas un, etc. Et les visiteurs ne sont pas forcément dupes. Donc, celle de Charles IX, roi de France, on en a parlé ce matin, de Ferdinand et de Philippe, roi d'Espagne, Don Juan d'Autriche, et d'une infinité d'autres princes, on me dit que celles-ci étaient les mêmes qu'il avait porté à la fameuse bataille de Lépante. l'aspect historique est important. Dans l'abondance des princes qu'on nomme, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Alors j'ai reparcouru rapidement le texte de Pintin. C'est vraiment la seule visite dans laquelle il donne un tel luxe de détails. Il est clair pour lui qu'Ambras est un lieu très particulier. Par contraste, il est allé à Dresde, mais on ne sait pas ce qu'il a vu à Dresde. Pas grand-chose, au fond. Il ne parle pas du tout des collections d'armes à Dresde, où il ne les a pas vues, ce qui est possible, il n'a peut-être pas eu accès, etc., où ça ne l'a pas intéressé, mais il est clair qu'à ses yeux, Innsbruck, c'est un lieu très particulier, c'est un lieu impérial, et c'est un lieu des victoires, etc. Un peu plus loin, j'y admirais les armes du grand Soliman. Elles inspirent encore de la terreur. Cette notation est vraiment intéressante. C'est posséder ces armes, c'est aussi, d'une part, avoir maîtrisé la terreur qu'elle suscitait, mais c'est aussi la rappeler. Je me souvins avec quel effroi que ce Mahométan avait fait trembler toute la terre. Et donc là, on est bien du côté du trophée. Posséder cette arme, c'est avoir terrassé le dragon. Enfin, pardon de la métaphore, mais c'est quasiment ça. Bon, la plupart des grands capitaines de notre dernier temps y ont aussi les leurs. Il y a donc un caractère quasi universel, style moderne de ces armes ou de ces armures renvoyant aux grands capitaines. Et là, on identifie bien cette collection comme un lieu de tous les pouvoirs, en tout cas de tout le pouvoir militaire. L'archiduc Ferdinand avait fait cette conquête. La pouvait-on porter plus loin, monseigneur ? Il s'adresse au seigneur qui l'a mandaté et financé pour ce voyage, que de désarmer tant de héros. Mais ce n'était qu'une conquête d'amitié. Ce prince, le plus curieux de son siècle, savait l'estime qu'il fallait faire de ses précieuses dépouilles. Il les demandait, et même on le prévenait quelquefois, c'est-à-dire qu'on le devançait quelquefois. Je sais qu'on lui en a offert, de peur que n'étant pas recherchée, elle ne manquasse la bonne fortune d'être si glorieusement consacrée. Alors ça, c'est un passage très intéressant. Bref, ce conseil d'amis offrait donc une armure avant qu'on aille la chercher là où elle se trouve. Bon, il y a des relations de pouvoir très claires, très importantes, me semble-t-il. Encore une fois, Pintin fait de ce lieu un lieu très particulier où le pouvoir militaire est l'enjeu fondamental. Et tout tourne autour de cela quasiment dans la visite qu'il propose. Je vais vite. Un tout petit passage sur l'une, parce qu'il y en a plusieurs, de ses visites à Vienne. Vienne est la capitale d'Allemagne, ou plutôt d'Occident. On y voit aujourd'hui la majesté de l'Empire, comme autrefois à Rome, qui n'est pas la première ville du monde depuis que celle-là est le séjour des empereurs. C'est la translation impériale, c'est toujours intéressant. Elle est forte non pas seulement parce qu'elle est défendue de bastions et de pièces de dehors qui la couvrent, mais parce que Soliman l'a assiégée et ne l'a pas prise. Alors, je saisis l'occasion pour dire que Pintin, dans ses visites, il fait vraiment un tour d'Europe, enfin même plusieurs, souligne de manière récurrente les défenses des villes, est-ce qu'elles sont bien défendues, etc. Et il fait de Vienne une sorte d'emblème, parce que, certes, elle est bien défendue, mais elle l'est d'autant plus que Soliman n'a pas pu la prendre. Ce grand seigneur n'était pas accoutumé à être vaincu, aussi ne l'avait-il jamais été. C'était lui qui prenait dans ses titres celui de faire ce qui lui plaisait et de ne rien faire qui lui déplut. Votre Altesse a dans son cabinet des monuments de ce siège sur des pièces d'or et d'argent, etc. Alors, là, je fais la transition est intéressante. Aller à Vienne, c'est constater de visu la curiosité, entre guillemets, de la ville entière. Ça, c'est le point de vue de Pintin. Je voulais terminer en insistant aussi sur le point de vue particulier de ceux qui visitent, de ceux qui racontent. Le point de vue de Pintin, c'est d'aller à Vienne pour toucher, si je puis dire, cette ville qui a résisté à Soliman. L'ensemble de la ville devient une curiosité à ce point de vue, et cette curiosité spécifique à cette ville, elle est au fond mémorisée, en quelque sorte, célébrée par les pièces d'or et d'argent. C'est d'abord un numismate. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, regarder ces pièces d'or, c'est comme aller à Vienne, c'est se souvenir que, etc., etc. On voit dans une autre chambre la représentation de Philippe II avec ses armes d'or massif chargées de diamants. Cette effigie superbe répond bien à la mémoire d'un si grand prince qui a épandu ses richesses parmi le monde et transporté le Pérou dans l'Europe. J'ai gardé ça pour le Pérou puisqu'on en a parlé ce matin. On y garde le juste au corps de buste que Gustave Adolphe portait à la bataille de Lutzen où il périt avec la fortune de son parti. Là, c'est l'arme trophée, c'est l'arme relique. Bon, et dans la visite qu'il fait, il pointe toujours ces éléments-là, et je note l'effigie de Philippe II. L'arme a aussi cette vocation, en quelque sorte, de compléter ou de se substituer à l'effigie. Troisième extrait. Vous aimez la curiosité, monseigneur. Il s'adresse donc à un de ses seigneurs allemands, que le destin en est doux. Alors, il y a un passage célèbre sur l'importance de la curiosité. Et j'ai mis en rouge ce qui m'importe. La curiosité est la seconde occupation du héros, mais particulièrement celle des médailles. Alors, je ne lis pas tout parce que j'ai plus le temps, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans ce passage, vous l'avez sous les yeux, ces pièces immortelles, ces petits asiles de la mémoire des grands hommes, etc., ben, ça fait pendant à ce qu'on disait ce matin, d'une certaine manière, avoir sous les yeux ces médailles des grands hommes, toutes choses égales d'ailleurs, c'est se trouver à Ambrasse dans la galerie des armures. Il y a, dans l'effet produit sur le spectateur, il y a quelque chose de comparable. Pas totalement, parce que les armures elles produisent un effet concret, particulier, mais en termes de réflexion sur ce que propose de telles visites, il y a quelque chose à ses yeux de comparable. La curiosité pour Patin, c'est l'occasion de réfléchir au statut de l'homme, à la vanité des choses, au caractère du pouvoir, à la domination, etc. Je termine sur Patin par ceci. Quoique les particuliers soient riches à Nuremberg, on peut dire que ce qui est public est infiniment plus superbe. C'est ce que j'ai observé dans les républiques que j'ai vues et c'est ce qui les conserve. Leur arsenal est très bien entretenu et peut armer en un instant 9 à 10 000 hommes. Alors ça me fait transition pour les 5 minutes qui me restent. Bon, chez Patin, plus encore chez Evelyn, même si je n'ai pas tout épluché parce que c'est compliqué. John Evelyn, le journal John Evelyn, c'est une des grandes sources. Eh bien, on est là au milieu du 17e, en gros, c'est 144-45 les passages que je vais évoquer très très vite. Il y a une attention, Patin, c'est 30 ans plus tard, une attention de la part de ces visiteurs qui vont faire le tour des villes. Patin, il est missionné pour aller visiter des cabines de curiosité, dire ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut échanger, etc. Mais il ne manque pas au passage de souligner ou de signaler qu'il y a à Nuremberg un arsenal très bien entretenu. Là, il n'est pas question de curiosité. Ou bien la curiosité, ça devient le fait qu'il y a un arsenal en très bel état et qui peut armer en un instant 9 à 10 000 hommes. C'est là que je dis, je déstabilise notre auditoire, parce qu'au fond, il n'est plus question de curiosité, encore que l'enjeu soit bien là, mais il y a une sorte d'interaction, si j'ose dire, entre la visite des objets de curiosité et la question de l'arsenal, c'est-à-dire au fond de l'enjeu de pouvoir immédiat. Chez John Evelyn, si je vais très vite, eh bien, lorsque je regarde ce qu'il dit à propos de Gênes, il visite la ville en octobre 1644, je vais traduire au fur et à mesure, près du palais ducal, nous vîmes l'armurerie publique qui était toute neuve, un très bel état, parfaitement tenue et parfaitement ordonnée, à tel point que j'en avais jamais vu aucune de cette sorte, tant pour la quantité qui suffisait à armer 30 000 hommes, ce qui est évidemment phénoménal à l'époque. Ici nous pouvions voir beaucoup d'inventions très rares et d'engins de guerre particuliers dans cette armurerie, prédisposée à toutes les guerres possibles. La garnison de la ville était essentiellement assurée par des Allemands et des Corsicans. Je suppose que ce sont des Corses, je n'ai pas vérifié. Bon. Bref, John Evelyn s'intéresse à l'arsenal en tant qu'il participe de la curiosité de la ville. Même chose à propos de Venise, qu'il visite en juin 1645. Juste deux passages et je termine vraiment. D'abord, c'est très marrant, il dit que visitant Venise, il a été, je cite ou je traduis, très surpris de l'extrême variété de bien des nations qu'il croise dans les rues de Venise. Hein qu'il le rencontre chaque jour dans les rues et les places, alors qu'ils sont remplis, dit-il, de Jews, donc de Juifs, de Turcs, d'Arméniens, de Perses, de Maures, de Grecs, de Slavons. Quelques-uns d'entre eux avec leurs targets and bucklers, avec leurs armes ou leurs flèches et leurs boucliers. Donc Venise elle-même est une ville curieuse parce qu'il y a plein d'étrangers, en plus en armes. C'est très drôle, cette précision. Et voyez bien que c'est l'exotisme, si je puis dire, de ces étrangers qu'il évoque. Et un peu plus loin, je termine vraiment, il évoque l'arsenal. Et il y a une page entière, je ne vais pas vous la lire, sur l'arsenal de Venise. Alors, entre-temps, il a parlé d'églises, de collections de peintures, d'autres curiosités extraordinaires. Et l'arsenal, dit-il, est une chose absolument extraordinaire. Alors, Pourquoi c'est extraordinaire? Je résume, je n'ai pas le temps de lire, etc. D'abord parce qu'il y a une profusion. L'arsenal de Venise, il est extraordinaire. Il y a tout ce qu'on veut. Il parle à maman, même, je crois, de... je ne sais plus, voilà. Voilà, on peut armer 800 000 hommes. C'est un chiffre totalement délirant pour l'époque, me semble-t-il. Bon. Alors, il évoque des armes d'un calibre inattendu. Par exemple, il cite un canon pesant 16 573 livres. Bon. Donc, l'intérêt pour lui, c'est la profusion, la quantité des armes, leur caractère extraordinaire au sens propre par leur taille. Et là, on est dans la technicité, ce n'est pas l'arme exotique. Et en même temps, il y a, par exemple, il parle des enseignes prises aux Turcs. Il y a un élément, il y en a d'autres, mais celui-là, il est clair. La richesse, si je puis dire, l'arsenal de Venise. Et là, on est du côté de la curiosité, parce que ça pourrait se trouver dans un cabinet. Ça se trouve à l'arsenal. Ce sont les enseignes prises aux Turcs. Bref, je termine là-dessus. John Evelyn, visitant Venise en long et en large, il y a 20 pages de toutes ses visites à Venise, il consacre le texte, une page, et c'est visiblement plusieurs heures, une véritable visite à l'arsenal, qui est pour lui un lieu de curiosité, un lieu de curiosité qui n'est absolument pas détaché de sa mise en œuvre éventuelle. On peut faire la guerre rapidement. Et au passage, on garde cette évocation des trophées, aussi bien que des armes présentant des mécanismes particuliers, une dimension particulière, donc qui sont des raretés en tant que telles. Et cette ambiguïté ou cette articulation entre la mise en œuvre potentielle de cet arsenal pour faire la guerre et de la curiosité qu'il constitue en lui-même, moi je la trouve fascinante, très, très intéressante, très ambiguë. Et pour moi, c'est une piste pour continuer à avancer, pour dissocier les armes exotiques, au moins certaines d'entre elles, comme Myriam a pu le faire, mais pour penser cette articulation, au moins dans le regard de certains visiteurs, entre la curiosité, les collections, quelque chose qui serait muséal ou muséographique au sens moderne, et quelque chose qui ne l'est pas du tout, parce que l'arsenal ici, il a une vocation qui est celle à laquelle vous pensez. Voilà, je m'arrête là. Allez, s'il y a une question, on la prend, sinon ce sera pour la prochaine rencontre. Ça va ? Oui ?
Absolument. Les arsenaux sont mis en scène, c'est-à-dire ce ne sont pas uniquement des entrepôts dans lesquels on va entasser sur des râteliers, des mousquets, des pièces d'artillerie, des munitions, etc. Ce sont des lieux qui sont conçus aussi pour être esthétiquement impressionnants. Et je pense que dans un contexte municipal ou dans un contexte étatique, ça joue le rôle de la collection d'armures du cabinet d'armes privé aristocratique, mais à l'échelle de la cité ou à l'échelle de l'État. Avec des témoignages des victoires de la cité, donc des trophées qu'on évoque pour Venise, avec des témoignages de sa puissance, des témoignages éventuellement de ses solidarités, de ses alliés, etc. Et l'arsenal est mis en scène, même s'il garde cette fonction utilitaire, est mis en scène comme une collection représentative de l'autorité et de l'autonomie aussi de l'institution qu'il a constituée.
C'est ce que j'ai constaté, mais ce n'est pas la manière habituelle, sauf peut-être pour des spécialistes comme toi, mais ce n'est pas la manière habituelle pour nous, littéraires, de saisir des collections, c'est tout. Parce que là, on est dans... Enfin, la définition de Pamien, elle ne marche pas, là, pour le coup, hein, pas du tout. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà. Mais sinon, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je constate avec ce simple texte. Et ce que, encore une fois, le plus intéressant chez Evelyn, par exemple, c'est que c'est concurremment à des visites de collections de peinture, effectivement, il visite l'arsenal, et tu as tout à fait raison, c'est mis en scène, c'est un lieu visité comme les autres. Bon. Et donc, ça, c'est une réalité particulière d'une époque spécifique où le statut de l'objet, des objets réunis n'est pas celui qui est le nôtre. Enfin, ça, c'est clair. Voilà, on va s'arrêter parce qu'il le faut. Merci beaucoup à tous. Il y aura des prolongements qu'on essaiera de faire connaître. À Paris, certainement, et merci de votre écoute et de votre venue les uns les autres. Merci.